Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58 et c'est parti pour Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Excellent réveil à tous sur RMC et à la télévision Canal 23, RMC Story. Nous sommes le jeudi 4 juin. Un Français sur trois n'arrive pas à prendre l'ensemble de ses congés. Conséquence pour beaucoup, des jours perdus, envolés. Alors est-ce qu'on pourrait pas transformer ces congés en argent, ces congés pas pris, en argent sonnant et trébuchant? C'est ce que propose un député. Il sera dans ce studio dans 10 minutes pour défendre sa proposition. Et puis j'attends vos réactions. Venez donc débattre ce matin au 32-16 ou sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Et puis on va revenir aussi ce matin sur la disparition de la petite Liana, toujours introuvable depuis vendredi. Et on l'a appris hier qu'il n'y avait pas une, mais quatre plaintes qui avaient été déposées contre le principal suspect de la fillette de 11 ans. Comment cet homme avait pu ne jamais être inquiété malgré ses signalements et ses plaintes? Est-ce qu'on est face à un énorme fiasco de la justice? L'avocat de l'association Innocence en danger est très en colère. Il sera dans ce studio à 7h40 et à 8h30. Le point sur l'enquête et sur le processus de la justice avec notre chroniqueur, le chroniqueur police-justice Dominique Rizet, qui sera donc mon invité à 8h30 dans le face-à-face. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h, mais d'abord la météo. Géraldine, pluie et fraîcheur au menu.
Ah oui, bienvenue en automne. Ça y est, c'est parti avec une perturbation qui va être très active aujourd'hui, qui va traverser tout le pays, qui va notamment donner des pluies soutenues cet après-midi entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Jura, pour avoir l'équivalent de 2 semaines de pluie. La Côte d'Azur sera touchée un peu plus tard dans la soirée, puis ailleurs ce sera du gris et des averses. Les températures, c'est plutôt de la douceur ce matin. Ne vous y fiez pas cet après-midi. On sera 3 à 7 degrés sous les normales de saison, avec 16 degrés pour Lyon, 18 à Lille, 19 à Bordeaux, 20 à Paris. Il fera plus doux vers la Méditerranée, avec quand même 28 pour Marseille et Perpignan.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Il est 7h, très bon réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il accumulait les procédures, 4 plaintes et signalement déposé contre lui. Le profil plus qu'inquiétant du principal suspect dans la disparition de Liana dans le Gers. Israël et le Liban qui s'accordent à Washington sur un cessez-le-feu soumis à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah. Et Victor Wembanyama, déçu de sa prestation avec les Spurs de San Antonio cette nuit, battu par les Knicks de New York, premier match de la finale NBA.
Jérôme B., principal suspect dans la disparition de Liana, visé par une nouvelle plainte.
Déposée hier matin pour viol sur une jeune mineure de 11 ans, elle dit avoir été agressée l'été dernier lors d'une soirée pyjama au domicile de ce père de famille de 41 ans. Il a été mis en examen, écroué dans l'enquête sur la disparition de la jeune collégienne de 11 ans. Déjà visé par d'autres plaintes, la première en 2017, une autre en 2022, classée sans suite. La dernière a été déposée en août 2025, là aussi pour des faits de viol sur une enfant de 10 ans. Le suspect avait rencontré la jeune fille dans un club de sport. Pierre Bourgès et Bérangère Bocquillon ont pu échanger avec son dirigeant. C'est un témoignage RMC.
Le suspect a fréquenté son club l'année dernière avec ses deux filles. Et très vite, ce professeur de sport remarque qu'il s'attache à une élève du club.
Globalement, les enfants l'aimaient beaucoup. Et cette petite fille, en fait, ils ont lié des liens d'amitié, y compris avec la maman. Ils ont commencé à se voir à l'extérieur.
C'est cette maman qui a porté plainte en août dernier contre Jérôme B pour le viol de sa fille. Pourtant, le dirigeant du club de sport l'a eu à l'œil dès son arrivée au club.
Très vite, on a repéré qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il était tout le temps avec les enfants. Les entraînements, il se mettait jamais avec les adultes. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui me paraissait bizarre. Et on surveillait.
Mais il ne l'a jamais exclu de son club de sport.
Jamais de gestes déplacés. On n'a jamais vu une main aux fesses, jamais de ci, ça. On s'est dit, bon, voilà, c'est quelqu'un qui est proche des enfants, etc. C'est vrai qu'on essaye de ne pas voir le mal partout.
Il n'a appris qu'avant-hier la plainte de cette maman d'une de ses élèves contre Jérôme B. Il est aujourd'hui rongé par la culpabilité.
J'aurais dû intervenir, j'aurais dû prévenir la maman, j'aurais dû... J'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il faut pour protéger une élève. C'est mon plus gros regret.
Et le gouvernement s'empare de cette affaire, annonce l'ouverture d'une enquête administrative sur d'éventuels dysfonctionnements.
Éventuels dysfonctionnements dont on parlera à 7h40 avec l'avocat de l'association Innocence en danger. Il est très en colère sur ces dysfonctionnements et le manque de réactivité de la justice après les plaintes et les signalements qui visaient Jérôme B. Et puis à 8h30, ne manquez pas Dominique Rizet, le chroniqueur police-justice. Où en est l'enquête? Je vous rappelle que Liana, elle est toujours introuvable.
Trois hommes, toujours en garde à vue ce matin, des agents de l'Office national des forêts entendus depuis près de 48 heures, suspectés de négligence. À l'origine du méga-feu dans le massif des Corbières qui avait ravagé 11 000 hectares de forêt l'an dernier dans l'Aude. Et pour lutter contre les incendies, dans le cadre du plan anti-incendie de cet été, le gouvernement annonce la commande de deux nouveaux Canadair portant à 16 le nombre d'appareils bombardiers d'eau en France. C'est l'information de la nuit. Après d'intenses combats ces derniers jours, Libanais et Israéliens se sont accordés sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, déclaration commune des deux pays, Amélie Courtet, après deux jours de tractations à Washington.
Un cessez-le-feu conditionné d'abord à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et au retrait de tous leurs combattants du secteur au sud de la rivière Litani, près de la frontière israélienne. Sous l'égide des États-Unis, le Liban et Israël se sont également accordés pour créer des zones pilotes dans lesquelles l'armée libanaise exercerait un contrôle exclusif du territoire. Toutes ces mesures doivent permettre à terme d'avancer vers un accord global de paix et de sécurité, indique encore leur déclaration commune. Les deux pays ont notamment convenu de participer à une nouvelle session de pourparlers la semaine du 22 juin. Plus tôt dans la soirée, le président des États-Unis, Donald Trump, insistait pour dissocier les discussions de paix sur le Liban et celles sur l'Iran, alors que Téhéran affirme qu'il s'agit d'un seul et même sujet.
Et dans ce contexte, les Français s'adaptent à la crise de l'énergie. Avec une conséquence, la baisse de la consommation des carburants, elle se poursuit en mai, moins 12% par rapport à l'an dernier. Cela représente un manque à gagner de 40 millions d'euros dans les caisses de l'État. Une première victoire pour les écologistes. Leur proposition de loi visant à limiter l'exposition des Français au cadmium a été votée hier soir à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement et à l'issue de débats plus qu'animés. Cyprien Pézril.
Pour les uns, un pas de plus dans la lutte contre un poison cancérogène. Pour les autres, c'est une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Ici, le député RN, Eddy Casterman.
Voilà que l'agriculture française est à nouveau traînée devant le tribunal de la décroissance. Accusés, agriculteurs, levez-vous.
Réponse de l'écologiste Clémentine Autain.
Quelques intérêts privés ne peuvent pas être supérieurs à l'intérêt général, à la santé publique.
Elle l'assure, il est facile et peu coûteux de réduire la présence de cadmium.
Environ 2 euros par hectare. Non, cela ne mettra pas en danger nos agriculteurs. Ça, c'est un mythe.
Aujourd'hui, la France est le pays d'Europe le plus exposé à ce métal lourd. Le texte vise à réduire les seuils autorisés étape par étape jusqu'en 2030. Trajectoire trop ambitieuse, déplore le gouvernement. Qu'importe, il doit respecter le vote, prévient le rapporteur Benoît Biteau.
Le problème, c'est qu'avec ce gouvernement, on est habitué à ce que les votes ne soient pas traduits en décret de loi. Donc là, maintenant, le combat, c'est de demander au gouvernement de traduire ce vote en texte réglementaire.
Et pour l'instant, le gouvernement ne dit pas s'il entend ou non suivre la trajectoire votée.
C'est un peu la Coupe du Monde qui débute ce soir sur RMC, 21h10, France-Côte d'Ivoire à Nantes. Premier match de préparation pour les Bleus à une semaine tout juste du début de la Coupe du Monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Un mondial sur fond de tensions géopolitiques mais aussi intérieures avec les polémiques en début d'année autour de la police de l'immigration, l'ICE, que redoutent certains supporters. Reportage au Texas de notre envoyé spécial sur place, Martin Bourdin.
Loin des regards, à 300 mètres de la route, le centre de détention de Deal et plusieurs dizaines de personnes, notamment des enfants soupçonnés d'être en situation irrégulière aux États-Unis, sont détenus dans ces bâtiments blancs, arrêtés par la police de l'immigration, police qui sera déployée pendant la Coupe du Monde pour assurer la sécurité autour des stades et des fan zones, notamment. Alors Jean-Pierre, d'origine haïtienne, ne prendra aucun risque.
J'ai regardé les matchs à l'intérieur chez moi, j'ai peur de ICE. Ils peuvent venir te chercher chez toi.
Cette peur, Patricia la ressent aussi, même si elle a la nationalité américaine.
Je suis toujours en train de regarder par-dessus l'épaule. Une de mes amies a retiré ses enfants de l'école pour leur faire cours à la maison parce qu'il y avait eu un raid de ICE dans l'école. Si on va à la fan zone, on va peut-être se faire arrêter.
En janvier, des agents ICE ont tué deux personnes à Minneapolis dans le nord du pays. Depuis, l'institution fait moins parler d'elle. Mais rien ne s'est jamais vraiment calmé, regrette Laura Perez Boston, qui gère une association d'aide aux migrants au Texas.
Il faut qu'on voit que les détenus dans ces centres n'ont pas accès à l'eau potable et à la nourriture. Les droits de l'homme sont bafoués, ça c'est tous les jours. Mais comme ce n'est pas dans la rue, on n'en parle pas et on ne le voit pas.
En avril, 60 000 personnes étaient encore détenues dans l'un des 220 centres du pays.
On reste au Texas, où jouait cette nuit le premier acte de la finale NBA. Déception pour les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, battu chez eux face aux Knicks de New York, 105-95. Alex Biggerstaff nous rejoint ce matin. Vous avez suivi ce premier match pour RMC. Alexandre, le Français n'a pas été étincelant sur le parquet cette nuit, déçu lui-même de sa prestation.
Oui, en conférence de presse après match, Victor Wembanyama est lucide.
I was bad tonight. It's not more complicated than that.
J'ai été mauvais, ce n'est pas plus compliqué que cela, déclare Wemby en manque d'adresse en attaque malgré ses 26 points et 12 rebonds. Pour ses premiers pas en finale NBA, le Français est tombé sur une défense redoutable. Épuisé, il a même perdu 6 ballons dont un crucial dans la dernière minute de jeu. En finale NBA, la première équipe à 4 victoires remporte le titre. Le match 2 se jouera une nouvelle fois à San Antonio dans moins de 48 heures, dans la nuit de vendredi à samedi. Et il faudra impérativement l'emporter pour ne pas s'envoler à New York dans une position très inconfortable. Les Knicks, en pleine confiance, sont désormais sur une série de 12 victoires consécutives dans ces playoffs et viennent donc de reprendre l'avantage du terrain.
Alexandre Biggerstaff pour RMC. Puis ça bouge sur les bancs de Ligue 1 après une saison dans le Nord et une Coupe de France Pierre Sage est sur le départ à Lens. Bruno Genesio, lui, est attendu du côté de Marseille quelques semaines seulement après son départ de Lille.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. RMC, souriez-vous. Est-ce que vous prenez tous vos congés? La réponse est non pour un Français sur trois. Bonjour Éric Pogé.
Bonjour.
Vous êtes député LR des Alpes-Maritimes. Vous avez déposé une proposition de loi pour que les salariés puissent transformer une partie de leur congé non pris en argent, du sonnant et trébuchant. Ce serait un coup de pouce financier bienvenu. Voilà votre parti pris, vous le défendez dans un instant. Et vous qui nous écoutez, appelez-nous au 3216. Est-ce que vous seriez prêt à échanger une semaine de congé contre du salaire en plus? Coup de pouce ou perte de droits sociaux? Venez témoigner et réagir au 3216. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Transformer ces jours de congés non pris en salaire supplémentaire. Est-ce que c'est ça la solution pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés? En tout cas, c'est la vôtre. Éric Pogey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député LR des Alpes-Maritimes. Vous avez déposé une proposition de loi pour que les salariés puissent transformer une partie de leur congé non pris en argent, en sonnant et trébuchant. Votre parti pris, c'est que ce serait un coup de pouce financier bienvenu, que de nombreux Français en réalité ne prennent pas l'intégralité des congés auxquels ils ont droit, qu'ils les perdent, alors que ça pourrait être une augmentation de salaire, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et vous venez de rappeler qu'il y a une récente étude qui montre qu'il y a plus de 25% de Français qui ne prennent pas la totalité de leurs jours de congés payés. Donc c'est aussi un moyen pour sacraliser les congés payés dans notre pays. Et puis le deuxième élément, vous l'avez dit, c'est une nouvelle liberté salariale, c'est-à-dire que ça permettra aux salariés d'arbitrer, de faire des choix, d'être libre entre temps de travail, temps de repos ou revenus supplémentaires.
Concrètement, ces congés non pris qui équivaudraient donc à des heures supplémentaires en quelque sorte, ou du travail en plus, ce serait monétisé? Mais ce serait défiscalisé, sans charge sociale?
Alors moi je propose que si la loi a été votée, cette indemnité au titre de ce travail lors des jours de congés payés soit totalement désocialisée pour le salarié et pour l'employeur, pour que ce soit attractif aussi pour l'employeur, et totalement défiscalisée un peu sur le modèle des heures sup. Mais je voudrais juste rappeler que ça existe déjà. Les salariés qui sont en CDD, les salariés qui sont en contrat saisonnier, les salariés qui doivent monétiser des RTT, tous ces dispositifs permettent déjà de monétiser des congés
non pris, avec notamment le compte épargne temps.
Exactement.
Sur lequel on peut mettre un certain nombre de jours que l'on n'aurait pas pris. Et une partie d'entre eux peuvent même mettre une sorte de petit bonus à la fin. En tout cas, on a l'impression d'avoir une petite cagnotte.
Exactement. C'est la même idée. C'est-à-dire que de laisser libre le salarié, ça serait sur la base du volontariat qui souhaiterait, parce qu'il y a un coup dur dans la vie, avoir une rentrée d'argent supplémentaire, et parce qu'il estime qu'avec, par exemple, 4 semaines de congé, c'est suffisant pour se reposer, il aurait la possibilité de monétiser une partie de ses jours de congé payés.
Alors évidemment, toute la question, c'est ce que vous appelez le volontariat. Comment est-ce qu'on peut vérifier et jusqu'où il s'agit véritablement de volontariat? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, ça ne peut pas devenir un moyen pour un certain nombre de patrons d'inciter très fortement leurs salariés à ne pas prendre l'intégralité de leur congé payé?
Mais comment ça se passe dans une entreprise? Moi, je suis un des rares députés à être commerçant en activité, donc je gère des salariés. Lorsqu'un salarié pose ses congés payés, eh bien, il faut le remplacer. On le remplace avec un autre salarié qu'on prend dans une boîte d'intérim ou à qui on fait un CDD. Et donc, pour l'employeur, il n'y aura pas de différence. Que l'on paye un salarié
en plus
pour remplacer le salarié qui va en congé payé, ou que j'indemnise mieux mon salarié, moi je trouve qu'au contraire c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Yannick est avec nous, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Allô Yannick, vous êtes là.
Oui.
Vous êtes maçon, je le disais, donc dans les Pyrénées-Orientales. Comment vous réagissez à ça? Ça vous intéresse, vous?
Ah ben moi oui. Mais de toute façon, c'est déjà le cas en intérim, hein, par exemple. En intérim, ceux qui ont envie de se faire payer chaque fin de mois ou chaque fin de mission leur congé payé, eh ben ils ont 10% de plus sur le salaire. Ça fait 10% de plus. Moi, je suis content. Enfin, on arrive vers le libéralisme pour le salarié. Enfin,
mais vous vous reposerez quand? Mais dans ces cas-là, Yannick, si vous le faites, vous vous reposerez quand?
Mais vous savez, moi, par exemple, dans ma branche, l'été, par exemple, on fait souvent les heures d'été, c'est-à-dire qu'on travaille le matin et jusqu'à une heure, on fait journée continue jusqu'à une heure.
Oui.
Donc, pour ceux qui, comme moi, qui partent pas en congé, enfin, qui partent pas en vacances ou quoi que ce soit, moi, ça m'intéresse.
Ces journées-là, c'est un bon compromis pour vous?
Bah, bien sûr. Bien sûr. Moi, je trouve qu'il faut arrêter de dire aux salariés quand est-ce qu'il faut qu'ils partent à la retraite, combien il faut qu'ils cotisent pour le chômage, combien
vous,
il faut qu'ils mettent
ça. Voilà, vous poussez ça jusque-là. C'est-à-dire, Yannick, vous dites, au fond, il faut que cette souplesse-là, c'est-à-dire si on veut travailler plus et donc gagner plus, il faut pouvoir le faire.
Ah, mais bien sûr. On dit aux gens, ils travaillent pas assez. Mais c'est pas qu'ils travaillent pas assez, c'est qu'il faut qu'on leur laisse déjà la possibilité de travailler. Et en plus, qu'on fasse en sorte qu'ils gagnent plus parce qu'ils travaillent.
C'est quoi votre statut à vous, Yannick? Vous êtes en CDD, en CDI, vous êtes en intérim.
Je suis en intérim et chaque mois, entre les IFM, les indemnités de fin de mission et les congés payés, chaque mois, j'ai minimum 300 euros de salaire en plus.
Mais ça veut aussi dire, Yannick, que vous bossez tout le temps. Enfin, vous enchaînez souvent les missions.
Non, parce que c'est à moi de mettre mes sous de côté si j'ai envie de prendre 15 jours de vacances. C'est à moi de le faire. Donc, si j'ai envie de prendre 15 jours de vacances, par exemple, au mois d'août, je vais prendre 3 semaines de vacances. Mais pourquoi? Parce que j'ai mis mes sous de côté.
Merci beaucoup, Yannick, pour votre réaction et votre témoignage. Éric Poget, est-ce que le risque, c'est pas aussi que ça se fasse au détriment d'une augmentation de salaire véritablement inscrite dans le contrat du travailleur?
Non, ça n'a rien à voir. Il continuera à y avoir des négociations salariales dans les entreprises. Là, l'idée, et je pense que votre auditeur l'a bien dit, c'est de donner plus de liberté aux salariés. C'est le salarié qui va choisir. On laisse arbitrer entre temps de travail, temps de repos et revenus supplémentaires. C'est ce dont notre économie a besoin aujourd'hui. Plus de liberté, plus de choix, plus de responsabilité. Et il l'a très bien dit, ça existe déjà pour les CDD, pour les saisonniers, pour les RTT. Donc, c'est d'aller un peu plus loin sur les congés payés et de laisser le salarié libre de choisir. Parce que dans une vie professionnelle, il y a différents moments. Il y a des moments où on a envie de plus travailler pour plus gagner. Et puis, il y a des moments où on a envie de plus se reposer. Eh bien, le salarié sera libre de ce qu'il veut faire.
Mathieu, il y a des messages sur le WhatsApp.
Oui, alors j'ai plusieurs messages aussi qui viennent nous alerter sur le fait que les congés annuels sont essentiels au bien-être, à la vie de famille et d'ailleurs même à l'économie, précise Aurélien sur le WhatsApp RMC avec le tourisme.
Est-ce que c'est pas ça les limites?
Mais il s'agit pas de toucher aux congés payés, au contraire, il s'agit de les sacraliser. L'étude qui tourne en ce moment, c'est 25% des Français qui ne prennent pas la totalité de leurs jours de congés payés. C'est là-dessus qu'on devrait axer. Et moi, je propose un outil qui permet de sacraliser ces jours de congés payés sous la forme d'une indemnité supplémentaire libre aux salariés de choisir.
Et comme vous dites, à différentes périodes de la vie.
Exactement.
Éventuellement. Merci beaucoup, Éric Poget, d'être venu défendre votre proposition de loi. Vous êtes député LR des Alpes-Maritimes, à l'origine donc de cette proposition de loi pour monétiser les congés payés non pris, un peu sur le modèle des RTT qu'on met sur son compte épargne temps. Et merci à Yannick pour son témoignage. Comme lui, vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin. Le 32-16. Arthur Chevalier est avec nous. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
On va remonter le temps comme chaque matin avec vous, Arthur. J'ai une question. Est-ce qu'on sait qui décide, qui se trouve sur les billets de banque?
Oui, ce sont les banques centrales. Mais en Angleterre, une révolution se prépare, puisque sur les billets de banque, Winston Churchill sera peut-être bientôt remplacé par un renard.
Un renard?
Allez, je vais...
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h19, il y a aussi Arnaud Demange qui arrive.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est l'heure, comme chaque jour, de remonter le temps avec Arthur Chevalier, notre historien maison. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
La Banque d'Angleterre envisage de supprimer les personnages historiques sur ses billets de 5, 10, 20 et 50 livres. Ils seront remplacés par des animaux.
Et oui, on dirait une blague, mais c'est un projet très sérieux du gouvernement britannique. Alors actuellement, sur les billets anglais, vous avez Winston Churchill, donc qui a vaincu les nazis, Jane Austen, une grande romancière du 19e siècle, ou encore Alan Turing, un génie des mathématiques. Mais tout ça, c'est terminé. Ces héros seront bientôt remplacés par des dauphins, des renards ou encore des grenouilles. Les Anglais ont jusqu'au 3 juillet pour choisir les animaux qu'ils veulent sur leur billet de banque. Le visage du roi d'Angleterre, déjà sur les billets, sera lui conservé.
Modifier des billets de banque, symboliquement, c'est quand même très fort.
Eh oui, puisque c'est
pas
un...
du tout rien.
Alors, c'est pas rien du tout, puisque c'est un des plus vieux moyens de paiement du monde. C'est une invention chinoise, les billets de banque. Il y a plus de 1000 ans. Alors, comment l'idée leur est venue? Alors, avant les billets, on payait avec du métal. Et figurez-vous qu'on se baladait avec des colliers sur lesquels on mettait des pièces de métal, un peu comme un portefeuille autour du cou. Pas très pratique. Donc, pour simplifier tout ça, des commerçants chinois ont commencé à s'échanger des bouts de papier avec les sommes qui étaient dues écrites dessus. Excellente idée. Le gouvernement chinois, du coup, s'en est inspiré pour imposer les premiers billets de banque.
Quand est-ce que ça arrive en Europe?
Beaucoup plus tard. Ça arrive au XVIIe siècle. Le premier pays en Europe à adopter les billets de banque, c'était la Suède. Alors la Suède, eux, ils avaient un autre problème. Ils payaient tout avec des pièces en cuir. Sauf que ces pièces, Apolline, elles pouvaient peser jusqu'à 30 kilos.
Ah oui.
Donc vous imaginez un peu la galère pour aller faire ses courses. Donc clairement, les billets ont changé leur vie.
En France, le premier vrai billet, ça arrive quand?
En 1800, c'était émis par la Banque de France, qui venait juste d'être créée par Napoléon Bonaparte. Notre premier billet, c'était un billet de 1000 francs. Et sur ces billets, au début, il n'y avait le visage de personne. Il faut attendre 1917 pour voir apparaître une figure historique. C'était un billet de 20 francs et l'effigie choisie, c'était celle du chevalier Pierre de Bayard, un héros de l'armée française au 15e siècle.
Donald Trump voudrait lui aussi un billet à son effigie.
C'est son dernier caprice en date au président américain pour les 250 ans de la création des États-Unis qui ont lieu cette année. Enfin, c'est l'anniversaire cette année. Trump veut une sorte de billet commémoratif d'un montant de 250 dollars à son effigie. Problème, l'apparition d'une personne vivante sur un billet est interdite aux États-Unis depuis 1866, donc pour l'instant c'est bloqué par la loi. Mais avec Trump on ne sait jamais, puisqu'il a déjà réussi un exploit en mars dernier, obtenir que sa signature apparaisse sur les futurs billets de 100 dollars. C'est une première pour un président en exercice depuis 1861.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Oui, c'est oui.
Et bonjour.
Et bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour
Apolline. Vous venez pirater face-à-face.
Oui.
Et ce matin, mon invité, c'est le chroniqueur police-justice Dominique Rizet.
Oui, et avec lui, nous reviendrons sur la disparition de Liana, cette fillette de 11 ans. Tiens, je vais vous raconter un peu ma vie. Hier, j'étais intervenant dans un congrès sur la médecine d'urgence devant 400 médecins
oui.
sur le thème « Peut-on rire de tout, y compris avec des familles qui souffrent ?» Hier, j'ai répondu oui. Eh ben, en
et
fait,
ce matin, non.
Voilà.
En fait.
En fait, non. Ouais. En fait, ce matin, je nuance. Alors, vous savez, Apolline, parfois, quand un sujet est compliqué, je triche. Je vous fais le coup de « Aujourd'hui, on est le 4 juin, c'est la journée mondiale de blablabla. » Et je passe à autre chose. Sauf que le 4 juin, c'est la journée mondiale des enfants victimes d'agression.
Ah oui, non.
Si, c'est vrai. C'est vrai. Non, quand ça veut pas, ça veut pas.
Ouais.
Alors, c'est aussi la journée mondiale de la chocolatine. Mais bon,
ah
si
bah
je
voilà.
fais toute la chronique là-dessus.
C'est quoi?
Ça va quand même, tu vois.
C'est
un pain au chocolat du Sud. Bref, à peau, vous recevez Dominique Rizet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dominique Rizet, il faut imaginer Éric Ciotti, mais sans l'accent, sans lunettes et en un peu plus petit. Et c'est un petit peu quand même.
Oui,
et c'est un vrai spécialiste. Il connaît tous les flics de France par leur prénom, les malfrats par leur matricule, et puis il s'y connaît en psychopathe. Il a bossé avec Christophe Ondelade pendant 20 ans. Il connaît. Alors, dans cette affaire, il y a un suspect. Alors là, vous connaissez le cliché des affaires criminelles. On interroge les voisins du suspect et les voisins disent on n'aurait jamais soupçonné. Il était gentil, disait toujours bonjour. Bah clairement ici, en plus, c'est pas le cas. Quoi. Tous les voisins disent c'est sûr que c'est lui. On aurait dû l'enfermer il y a 1000 ans. On comprend pas ce qu'il fout dehors. Et en fait, de fait, on ne comprend pas ce qu'il fout dehors. Il y a déjà une plainte pour viol qui a été déposée contre lui par une fillette de 10 ans en 2022. Et l'enquête n'a pas permis d'étayer les déclarations de la fillette. Je cite, l'affaire a été classée sans suite. Bon. Oui, mais ça, c'est la procédure normale. Je veux dire, on connaît, un enfant parle, on laisse moisir ça pendant des années, après on demande gentiment au violeur s'il a violé, le gars répond
non.
Et ensuite, c'est classé sans suite.
Eh ben voilà.
Tous les parents qui ont eu un enfant agressé connaissent la mécanique, c'est normal. Moi, j'en connais assez personnellement pour vous dire que c'est quasiment dans le code de procédure et qu'il serait peut-être temps de se pencher sur la question.
Voilà, Apolline, c'était des barres de lol de feu.
Vous voyez, on aurait dû faire la chocolatine. En fait. Ouais. C'était mieux, c'était mieux à l'heure du petit-déj.
C'est quoi? Moi, je pense
allez,
que ça aurait été vraiment mieux.
À 8h30.
Dominique Rizet, à 8h30, le point sur l'enquête, évidemment. Et justement, on le disait à l'instant, au moins 4 plaintes visaient donc Jérôme B., le principal suspect dans la disparition de la petite Liana, qui a disparu depuis vendredi. Comment l'homme n'a-t-il jamais été inquiété, interrogé malgré ses signalements et malgré ses plaintes? L'avocat de l'association Innocence en danger est l'invité d'Apolline Matin dans 10 minutes maintenant. À 7h50, la voix de gauche ne manquait pas Cécile Duflo. Elle s'intéressera aux riches. À partir de quand est-ce qu'on est vraiment riche? Pour elle, les riches d'aujourd'hui ne sont pas les riches d'hier. N'hésitez pas vous aussi à nous appeler au 3216 et puis vous l'aurez compris à 8h30, le point sur l'enquête, ce sera avec Dominique Rizet. Pour l'heure, il est 7h26, restez bien avec nous. Dans un instant, c'est la météo et le journal. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h30 sur RMC et RMC Story, c'est l'heure du journal.
Les gardes à vue des 3 agents de l'Office national des forêts touchent à leur fin ce matin. 7 questions. Sont-ils à l'origine d'un incendie mortel, soupçon de négligence, d'un jet de mégot qui aurait embrasé l'eau de l'an dernier? Un suspect, 4 affaires. En plus de l'enlèvement de Liana dans le Gers, on apprend que Jérôme B. avait été accusé de viol et d'agression sexuelle par des mineurs. Et puis l'Olympique de Marseille a trouvé son entraîneur. L'ancien Lyonnais, l'ancien Lillois Bruno Genesio va débarquer sur la Canebière.
Leur mission était de protéger la forêt. Ils sont soupçonnés de l'avoir fait partir en fumée.
3 agents de l'ONF, l'Office national des forêts, sont en garde à vue. Ils doivent sortir ce matin. L'été dernier, un incendie ravageait 11 000 hectares dans l'Aude. Une femme perdait la vie, sa maison prise dans les flammes. Pierre Bazin, vous êtes l'envoyé spécial de RMC à Ribaud, épicentre du feu à l'époque. L'hypothèse des enquêteurs, c'est un acte de négligence.
Un geste maladroit mais dramatique, comme le possible jet d'un mégot de cigarette par l'un de ses agents. C'est l'une des hypothèses de travail des enquêteurs qui veulent rester très prudents. Alain Coste, l'ancien maire de Ribaud, nous emmène à l'endroit même où l'incendie est parti.
Le feu prenait vraiment du bord de la route et en montant.
Alors l'annonce de ces gardes à vue a secoué la commune, encore traumatisée.
C'est un choc, on peut dire, parce que ce sont des gens qui sont proches de la nature, qui sont très sensibles au risque d'incendie, qui prêchent la bonne parole. Donc ça paraît incroyable. Sauf à ce que ce soit une bêtise. Mais bon, une bêtise venant d'un agent de l'ONF, ça peut être considéré comme plus qu'une bêtise.
De l'autre côté du massif, c'est là, à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, qu'une sexagénaire est morte dans l'incendie. Comme beaucoup d'habitants de la commune, Christian Bensen, membre de la réserve des pompiers, ne veut pas croire à une telle négligence.
Vraiment, je connais tous ces agents qui sont là par vocation. Mais je ne mets pas en doute les enquêteurs, bien sûr. Mais c'est difficile, vraiment, je vous le dis, c'est difficile.
Les conclusions de l'enquête sont en effet très attendues dans cette région, encore largement noircie par l'incendie du siècle.
Et notez cette annonce ce matin, ce jour d'ouverture de la campagne de lutte contre les feux de forêt. La France va s'équiper de 2 nouveaux Canadair. Cela porterait leur nombre à 16 d'ici 2032. À Fleurance, dans le Gers, la colère s'ajoute à l'angoisse. L'angoisse de ne pas retrouver Liana, cette collégienne disparue vendredi. La colère de découvrir les antécédents de Jérôme B., le suspect numéro 1 en détention provisoire. 4 affaires dévoilées par la procureure hier, dont 3 plaintes pour viol ou agression sexuelle sur des jeunes filles, la dernière déposée hier. Pierre Bourgès à Florence pour RMC. La justice est dans le viseur des habitants.
Dans les rues de Florence, nombreux sont les habitants à avoir suivi les déclarations de la procureure. Tous ont découvert avec colère l'accumulation des procédures à l'encontre du suspect.
C'est horrible, il n'y a même pas de mots en fait.
Cette habitante, maman de 2 filles, s'interroge, la justice a-t-elle fait son travail?
J'éprouve de la colère parce que finalement, nos enfants ne sont pas du tout écoutés. C'est une honte, ça aurait pu être la mienne. Voilà. Ça me fait mal pour les parents.
D'autant qu'à cela s'ajoute encore une nouvelle plainte pour viol sur mineur déposée hier selon la procureure d'Auch. C'en est trop pour le maire de Fleurance, Grégory Bobato, qui dénonce des dysfonctionnements de la justice.
La réalité, c'est que nous faisons les frais de décennies d'économie sur le dos de sujets cruciaux que sont l'accompagnement de la parole des victimes et l'urgence que devraient revêtir les procédures quand il s'agit d'enfants. Ils sont victimes de criminels pédophiles d'abord et d'un système qui les écrase par sa lenteur ensuite.
À ce stade de l'enquête, le suspect reste présumé innocent. Encore aujourd'hui, les 170 militaires présents sur place continuent les battues pour tenter de retrouver Liana.
Et notez qu'hier, le ministre de l'Intérieur a lancé une enquête administrative sur d'éventuels dysfonctionnements, dit-il, concernant ses antécédents du suspect. Au Moyen-Orient, Israël et le Liban tombent d'accord sur un cessez-le-feu, à condition que le Hezbollah quitte le sud du Liban et n'attaque pas Israël. Les deux pays ont convenu aussi de créer des zones pilotes, des zones contrôlées par l'armée libanaise. Et ces conflits, ils ont causé ce chiffre chez nous. La consommation de carburant a baissé de 12% le mois dernier par rapport à mai 2025. Effet de la hausse des prix, bien sûr. Dans le détail, Victor Joannin, comment se sont comportés les Français ?
Les automobilistes se sont adaptés. Ils roulent moins vite pour moins consommer. Ils vont faire le plein en Espagne, en Italie ou en Allemagne dans les régions frontalières et ils laissent la voiture au garage quand c'est possible. Les Français qui semblent même avoir accentué leurs efforts pour éviter les passages à la pompe superflus puisque la baisse des ventes de carburant accélère. Elles ont chuté de 11% en avril et de 12% en mai selon les chiffres du gouvernement. Cette baisse se vérifie surtout pour le gasoil qui est le carburant le plus utilisé en France et qui est aussi celui dont le prix a le plus augmenté. Les stations Total continuent d'attirer les clients avec leur prix plafonné à 2 euros le litre d'essence et 2,10 euros le litre de gasoil. Mais c'est évidemment beaucoup moins le cas pour la grande distribution et les indépendants, dont les ventes se sont effondrées de 20 à 40%.
Victor Joannin pour RMC. Les accusations de viol qui le visent ont eu raison de la tournée canadienne de Patrick Bruel. Après Québec, il y a quelques semaines, les organisateurs ont annulé les 3 dates du chanteur à Montréal.
Il est 7h35, le foot, c'est parti pour la valse des entraîneurs en Ligue 1.
Il y a moins d'un mois, Bruno Genesio quittait le LOSC, Lille. Eh bien, selon nos informations, il va débarquer à l'Olympique de Marseille, David Alias.
Il disait avoir besoin de repos, la passion l'a déjà rattrapé. Bruno Genesio va succéder à Habib Bey sur le banc marseillais, un énième changement qui agace ses supporters.
Il change trop souvent d'entraîneur. En début de saison, l'OM est toujours bien placé. Et puis en seconde partie du championnat, ça se termine toujours mal.
Ça va faire pareil avec des Herbis, Habib Bey. Ça va être le même scénario comme chaque année.
Pourtant, le technicien français présente un profil différent de celui de ses prédécesseurs, Jérôme Roten, consultant RMC Sport.
Il a quand même à ce recul l'âge pour être le bon nounours. Sur les dernières années, on a eu beaucoup d'entraîneurs très excités, à l'image de la ferveur à Marseille. On est obligé de constater que ces entraîneurs-là, ils ne s'inscrivent pas dans la durée à l'Olympique de Marseille.
Priorité du nouveau président marseillais Stéphane Richard, Bruno Genesio va connaître son quatrième club de Ligue 1 après Lyon, Rennes et Lille. Une force pour Jérôme Roten.
Je pense qu'il a montré qu'il pouvait bien s'acclimater et s'adapter à d'autres clubs. Je vois pas de problème particulier de ce côté-là.
L'entraîneur de 59 ans va s'engager à l'OM pour 2 saisons avec une année en option, une fois le départ d'Habib Bey officialisé par le club.
Et toujours du foot, on rentre dans notre Coupe du Monde. C'est le premier match de préparation des Bleus ce soir, France-Côte d'Ivoire à 21h10 à suivre sur RMC, tout comme le tennis, notre radio digitale 100% terre battue. Début des demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros, d'abord les femmes avec un duel Ukraine-Russie, Kostyuk-Andreeva cet après-midi, puis Schneider, la Russe, tombeuse hier de la numéro 1 mondiale Sabalenka, rencontrera la Polonaise Schwalinka.
Et puis le quintet, c'est à Paris-Longchamp.
Départ 20h15, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Sa favorite, c'est le numéro 8, Jury. L'outsider, c'est le numéro 5, Trofan. Le 8 et le 5.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h37. Au 32-16, vous êtes nombreux à réagir à cette proposition de loi. Monétiser les congés payés que l'on n'aurait pas pris pour avoir un peu de salaire supplémentaire. Guillaume est avec nous, qui nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonjour Guillaume.
Bonjour Apolline.
Vous êtes commercial, vous avez réussi à monétiser certains jours que vous n'auriez pas pris ?
Oui, alors moi l'année dernière, sur les 5 dernières années, j'étais dans les vignes, j'étais en ouvrier viticole.
Ouais.
Et en fait, on avait annualisé mon temps de travail. Et sur cette annualisation de temps de travail, sur les heures supplémentaires et les congés pas pris, on avait créé donc un espèce de compte temps.
Ok.
Qui me permettait, moi, de tout mettre de côté. Et le jour où je suis parti, je suis parti avec 2 mois de salaire en plus, quoi.
Que vous aviez en fait accumulé sur ce compte épargne temps.
Accumulé, exactement.
Sur donc des ça vous, passe... et, ça et vous des, paraît des une très bonne idée.
Bah plutôt oui, je pense que c'est plutôt une avancée. On est libre de les prendre ou non, et en plus on vous les paye derrière, donc c'est pas perdu et c'est que du gain.
Ce serait en plus défiscalisé, sans cotisation sociale, donc intéressant pour l'employeur, intéressant pour le salarié.
Bah d'autant plus, ouais.
Aujourd'hui, vous faites plus ça, Guillaume. Vous êtes commercial toujours dans le domaine de la vigne ?
Non, pas du tout. Moi, je suis dans les solutions pour la logistique maintenant.
Ok.
Ce que vous appelez communément les caddies, en fait.
Ok. Et là, vous avez quoi comme contrat désormais ?
Là, je suis en CDI. Pour l'instant, je suis encore en période d'essai, mais j'ai un CDI classique.
D'accord. Et ça vous plaît ?
Et ça me plaît, oui.
Et ça vous plaît. Merci beaucoup, Guillaume, d'être intervenu. Non, mais c'est passionnant aussi de voir les changements de parcours, les changements aussi de contrat, la manière dont ça se passe. Merci, Guillaume, d'être intervenu au 32-16. Ça existe, en effet, pour les jours non pris, les fameux RTT qui, eux, peuvent être mis sur les comptes d'épargne temps. Cette proposition de loi, désormais, ce serait que les congés payés, eux aussi, puissent bénéficier de ce système. Comme Guillaume, vous nous appelez au 32-16. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Au moins 3 plaintes pour viol, des viols sur mineurs, dont une fillette de 10 ans. Plusieurs signalements, des signalements pour des comportements inappropriés avec des jeunes filles mineures. Et rien. Le principal suspect de l'enlèvement de la petite Liana la semaine dernière dans le Gers avait déjà été visé par des signalements, des plaintes, sans avoir été inquiété. Bonjour maître Mathias Darmon.
Bonjour madame.
Vous êtes l'avocat de l'association Innocence en Danger et vous êtes en colère ce matin. Est-ce qu'on est face à un fiasco à la fois des enquêteurs et de la justice? N'ont-ils pas perçu l'urgence? Vous réclamez un principe de précaution dans ce genre de cas pour éviter d'autres victimes. Vous nous le dites dans un instant et vous aussi bien sûr, vous n'hésitez pas à nous appeler au 32-16, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h43 sur RMC. Et RMC Story, la petite Liana a donc disparu depuis vendredi dernier. Elle est toujours introuvable et le profil du principal suspect sidère. Maître Mathias Darmon, bonjour. Vous êtes l'avocat de l'association Innocence en Danger. La procureure de la République a confirmé hier que Jérôme B., le principal suspect dans cette affaire, était en réalité visé par 4 plaintes et procédures, dont plusieurs pour viol, l'un sur une fillette de 10 ans. Comment expliquer qu'il n'ait jamais été inquiété ?
Bon, pour moi, il y a une double problématique. C'est, on a une plainte qui a été déposée en 2022 par une jeune fille qui était née en 2013, donc elle avait 9 ans. Au moment où elle dépose plainte pour des faits de viol. Cette plainte est classée sans suite, 2 ans après. Pour moi, ce premier point, déjà, c'est une tragédie. Qu'est-ce qu'on va dire à cette petite de 9 ans, en 2024? On va lui dire, écoute, la justice a considéré finalement que c'était pas si grave, que c'était pas très important, alors elle a classé sans suite ton dossier. On ne te croit pas.
Ensuite, les faits n'étaient pas suffisamment
caractérisés.
Voilà l'expression.
Je suppose que c'est un classement 21, comme on appelle ça, c'est-à-dire il y a un manque d'éléments dans le dossier. Mais bon, encore faudrait-il les chercher. Ensuite, on a cette plainte d'août 2025 qui a été déposée et qui met un temps fou avant d'être traitée par la gendarmerie.
Il se perd dans les méandres de l'administration 9 mois avant en réalité d'être ressorti. Parce que oui. Liana.
Et ça c'est une seconde problématique, c'est le temps. Combien de temps ça met pour traiter une plainte pour viol sur mineur? Et c'est indécent de se dire qu'aujourd'hui ça met plusieurs mois avant d'entendre le mise en cause, alors qu'on a une petite de 10 ans, 11 ans qui vient dénoncer des faits de viol. Et c'est absolument tragique de se dire qu'est-ce qu'on va dire à cette petite fille, que ça va durer des mois, que ça va durer des années, qu'on n'entendra pas de mise en cause. C'est révoltant.
C'est révoltant, avec une question aussi qui est évidemment le dysfonctionnement majeur de la procédure, de la justice, de signalement qui en réalité ne signale rien à personne et qui se perdent dans les méandres. Lorsque cette plainte est déposée en 2025, en août 2025, comment est-ce possible que ça n'allume pas une sorte de warning immédiat parce que on corrobore, qu'on retrouve, qu'on voit que le nom est déjà celui d'une plainte pour des faits de même nature, classés sans suite 2022, de signalement dans des établissements scolaires où il a fini par être renvoyé pour des comportements jugés inappropriés avec une jeune fille. Comment est-ce possible que ces signalements soient en quelque sorte les uns parallèles aux autres sans que personne à un moment ne les croise?
Ça s'accumule jusqu'à un point de non-retour. Je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un fichier, par exemple, central, qui permettrait de recenser tous les signalements sur le TASH, par exemple, donc le traitement des antécédents judiciaires, sur les classements sans suite, sur des plaintes qui auraient été déposées. C'est une accumulation qui formerait en fait une sorte de faisceau d'indices qui laisserait penser, bon, que la personne qui est mise en cause aurait effectivement commis les faits qu'on lui reproche. Et donc, là, il y a une vraie problématique de centralisation des données et il faudrait que les policiers, lorsqu'ils reçoivent une plainte sur une personne, soient informés automatiquement du passé de ce monsieur.
Avec cette question évidemment qui est que l'urgence est plus importante encore quand il s'agit de fillettes de 10 ans et que l'on sait que l'homme en question est lui-même père de deux fillettes à peu près du même âge, ne serait-ce que pour s'interroger et protéger aussi celle-là. Je voudrais que vous écoutiez les mots du ministre de l'Intérieur. Il a été interrogé hier à l'Assemblée nationale, Laurent Nunez, et il a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. Écoutez.
J'en ai parlé avec le garde des Sceaux et nous avons décidé sur cette question de diligenter une enquête administrative qui sera confiée à l'inspection générale de la justice, à l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour identifier évidemment d'éventuels dysfonctionnements.
Comment vous réagissez?
En fait, le problème, c'est que les dysfonctionnements sont la norme. C'est-à-dire que j'ai des dizaines de dossiers où la petite fille ou le petit garçon vient déposer plainte et on attend des mois ou des années avant qu'on ait un juge d'instruction, avant que le mis en cause soit placé en garde à vue. Et c'est absolument indécent de se dire qu'on attend peut-être... Moi, j'ai des dossiers où j'ai un juge d'instruction qui est saisi au bout de 5 ans. Comment c'est possible aujourd'hui en France qu'on ait une plaignante mineure qui vienne au commissariat, qui prend son courage, qui prend toutes ses forces pour aller évoquer des faits absolument immondes et on a une justice au ralenti qui prend jamais en considération la souffrance des victimes, et on est dans une forme de victimisation secondaire. C'est des plaignantes ou des plaignants qui souffrent année après année parce qu'on a un silence de la justice, que ça soit du parquet ou que ça soit des juges d'instruction, et c'est inaudible. Alors que pourtant, c'est des faits absolument dramatiques qui sont signalés.
Vous dites jusqu'à ce que l'irréparable soit commis, parce que évidemment, la question qui se pose et qu'on a tous en tête, c'est la disparition de Liana, toujours introuvable depuis 6 jours. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans la voiture de ce principal suspect, père de l'une de ses meilleures amies, chez qui elle avait été faire ses fameuses soirées pyjama. La maman de la petite fille qui a porté plainte en août dernier, qui a, comme vous l'avez dit, pris son courage à deux mains pour aller déposer plainte et raconter ces faits ignobles. Cette maman, elle dit, si la plainte que j'ai déposée en août avait été prise au sérieux, peut-être Liana n'aurait pas disparu.
Oui, et puis elle a rajouté qu'elle avait essayé d'obtenir des informations.
Depuis, elle appelait régulièrement parce qu'elle n'avait aucune nouvelle de sa plainte.
Et les gendarmes lui répondent, écoutez, vous nous saoulez, on a d'autres choses à faire. Ça démontre toute la considération qu'on apporte aux victimes, encore plus lorsqu'elles sont mineures. Il y a eu un basculement avec l'ère MeToo. Je pense qu'il faudrait un basculement maintenant sur les enfants. Enfin, il faudrait des politiques qui prennent en considération la parole des enfants, qui sont vulnérables, qui sont fragiles. Et c'est absolument inaudible, insupportable d'entendre ce type d'informations aujourd'hui.
Et vous demandez l'application d'une sorte de principe de précaution lorsqu'il s'agit de mineurs et qu'il faut les protéger. J'ai presque envie de dire principe de protection.
Oui, de protection, peu importe en fait. J'entends évidemment la présomption d'innocence, mais quand on a une petite de 9 ans, 10 ans qui vient dénoncer des faits de viol, c'est absolument immonde déjà. Et on lui dit, ah écoutez, d'abord on va faire une enquête de personnalité, d'abord on va entendre l'entourage de monsieur, on va entendre votre entourage, on va faire un examen gynéco. C'est pas possible en fait. Il faudrait, par principe, on entame une perquisition, on entame peut-être des géolocalisations, différents actes de procédure que le parquet peut ordonner pour placer au plus vite le monsieur en garde à vue.
Et on rappelle qu'il n'avait été ni interrogé, ni même approché par la justice malgré toutes ses plaintes. Merci Maître Mathias Darmon, avocat de l'association Innocence en danger. Je vous signale également qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera Dominique Rizet, le spécialiste police-justice, pour faire le point précisément sur l'enquête. L'enquête sur la disparition de Liana et sur les dysfonctionnements majeurs donc de ces processus de justice. 7h50, Cécile Duflo est rentrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, la voix de gauche, c'est vous. On est riche à partir de 4 292 euros par mois pour une personne seule. Voilà ce qui ressort de l'Observatoire des inégalités. Est-ce que la France a un problème avec ses riches et qui est riche selon vous?
Alors, c'est pas la France qui a un problème avec ses riches, c'est les riches qui ont changé et beaucoup changé. C'est pas moi qui le dis, c'est Balzac.
Vous nous le dites dans un instant avec Balzac. Donc, 51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le retour d'un duo culte, Mathieu.
Normalement, quelques petites notes, on reconnaît le tube de 38 ans. Vous êtes, oui, avec David et Jonathan, qui ont bien grandi depuis leur carte postale de 88. Le crocodile sur le blouson, on la connaît. C'est bien un retour qu'ils annoncent. Déjà,
c'est Duflo qui est déjà dans ce studio, je vous l'avoue. Elle murmure les paroles qu'elle connaît visiblement encore par cœur.
J'ai vu lire sur mon épaule de quoi j'allais parler. Elle était contente. Leur première tournée qu'ils annoncent, en fait. Ils ne se sont pas vus pendant une trentaine d'années. Est-ce que tu viens pour les vacances?
David explique avoir longtemps souffert de l'étiquette de vedette adolescente laissée par le succès. Ils estiment que ça leur a fermé des portes. Alors même si David a écrit et composé ces dernières décennies pour Céline Dion, pour Lara Fabian, Jonathan s'est lancé dans la photo avec succès, mais donc à 56 et 58 ans, on reverra David et Jonathan chanter ensemble en tournée en 2027.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53, c'est jeudi, c'est la voix de gauche, c'est Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Combien y a-t-il de riches en France? Où vivent-ils? Qui sont les riches de France? L'Observatoire des inégalités vient de rendre son rapport sur les riches. Ça provoque beaucoup de débats, Cécile.
Oui, c'est intéressant, mais en fait, ça a un grand mérite. Ça met en lumière une réalité. Une réalité sur les revenus. Déjà, pour commencer, en disant que selon l'Observatoire des inégalités, à 4300 euros net par mois pour une personne seule, un peu plus de 10 000 euros pour un couple avec deux adolescents, on fait partie des plus riches. C'est vrai, en termes de revenus, on fait partie des plus riches. Ce qui est sûr, c'est que si on intègre la question du patrimoine, ça change un peu les choses. C'est pas la même chose si vous gagnez 4300 euros et si vous payez 1500 euros de loyer ou si vous êtes logé gratuitement.
Est-ce que c'est un problème de savoir qui est riche? Pourquoi ça crée de la jalousie? C'est quoi? Ça crée de l'envie? Enfin, pourquoi?
D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une fatalité. C'est ce qui est le plus criant dans ce rapport, c'est les inégalités, notamment les inégalités de patrimoine. Mais c'est le résultat.
C'est d'être riche ou de l'inégalité.
Ce qui est pas une fatalité, c'est alors ce qui est un peu une fatalité, c'est d'être riche. La meilleure chance de devenir riche, c'est de naître dans une famille riche, et c'est encore plus valable pour les milliardaires. Mais la réalité, c'est que c'est le résultat de choix politiques. Et 10 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, on se souvient de la promotion du ruissellement, on peut dire ça ne marche pas. Ou plus exactement, ça a ruisselé dans l'autre sens. La fortune des milliardaires, c'est un chiffre Oxfam, qui était milliardaire quand Emmanuel Macron a été élu, a été multiplié par 2 depuis son élection. Et dans le même temps, on bat les records de taux de pauvreté depuis 30 ans.
Donc, il y a toujours eu des très riches en France. Est-ce que finalement il y a quelque chose de nouveau dans cette histoire?
Alors c'est ça qui est intéressant et c'est là qu'il y a un petit signal d'alerte. C'est qu'on n'est pas du tout dans un niveau d'inégalité habituel en France. Et Guillaume Anzo a fait un travail rigolo, si on peut dire. Il a repris tout Balzac et il a regardé tous les chiffres. Parce que Balzac, la comédie humaine, on voit très bien les très très riches, les très très pauvres. Et bien en fait, quand il analyse les revenus et qu'il les ramène à la valeur d'aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas changé. Un étudiant, dans le livre de Balzac, il survit avec 600 euros par mois. Un journaliste, il vit avec 1800 à 3300 euros. Un notaire, c'est 20 000 euros par mois. Mais là où c'est intéressant, c'est que les plus riches des plus riches des livres de Balzac, ce seraient aujourd'hui des modestes petits millionnaires. La plus grande fortune dans les livres de Balzac, c'est le baron de Nucingen. On raconte ses fêtes délirantes, sa fortune extraordinaire. Ben en fait, il aurait aujourd'hui 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, c'est 1000 fois moins que les plus grandes fortunes actuelles. Et surtout, il serait pas dans le classement des 500 familles les plus riches de France. Le baron de Nucingen, le richissime baron, ne serait pas parmi les 500 plus riches de France. Et cet envol-là...
Il passerait même pas la barre, quoi.
Il passerait pas la barre. Il n'y avait pas de milliardaire à l'époque de Balzac. Et c'est ça qui change. C'est cet envol considérable des inégalités qui crée de la tension. Et je voudrais à ce moment-là dire que c'est pas seulement un risque économique, c'est pas seulement un risque social, c'est aussi un risque démocratique. Et Balzac a une phrase qui nous parle beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Il dit « L'argent n'est une puissance que quand il est en quantité disproportionnée ». Et c'est ça qui nous arrive.
Merci beaucoup Cécile Duflot. La voix de gauche ce matin sur RMC. Demain, le débat voix de gauche et voix de droite. Ce sera toujours à 7h50. Pour l'heure, il est 7h56. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À la une du journal de 8h, début de la Coupe du Monde dans une semaine tout pile aux États-Unis. Est-ce que vous sentez l'ambiance monter? Match de préparation des Bleus ce soir. Et puis après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
L'économie française vous inquiète?
Oui. Peut-elle encore échapper à la récession?
Vous nous le dites dans un instant, il y aura la météo aussi. Ma Géraldine nous dit carrément que c'est l'automne. Allez, sur ce, il est 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Excellente journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous sommes ce matin à une semaine du tout premier match de la Coupe du Monde de football en Amérique. Vous allez voir que les Bleus jouent leur premier match amical ce soir contre la Côte d'Ivoire et que l'autorité nationale du jeu alerte sur les paris sportifs qui pourraient bien atteindre des niveaux records durant la compétition. On sera dans ce journal à Grenoble où les dealers taquent désormais des offres d'emploi sur les murs des cités et à Roland-Garros où il y aura un match Russie-Ukraine aujourd'hui en demi-finale.
On est donc à une semaine tout pile du début de la Coupe du Monde de football.
Alors ça va être le mondial des footballeurs, mais aussi le mondial des parieurs. Romain Hougue pour RMC en direct ce matin. L'autorité nationale des jeux s'inquiète des sommes records qui pourraient bien être jouées pendant toute la durée de la Coupe du Monde.
Oui, une barre symbolique pourrait être franchie pour la toute première fois en France lors d'une compétition sportive avec jusqu'à 1 milliard 200 millions d'euros de mise. Alors il y a d'abord un effet mécanique dû au format XXL de ce mondial. 48 équipes en phase finale, 104 matchs, c'est 40 rencontres de plus qu'il y a 4 ans au Qatar. Plus de matchs, c'est encore plus d'opportunités de parier dessus et forcément, ça dépend aussi du parcours des Bleus. Plus l'équipe de France ira loin dans la compétition et plus il y aura de paris. Ce qui inquiète l'autorité des jeux, le régulateur du marché en France, c'est la perte de contrôle qui concerne plus d'un tiers des parieurs habituels. L'ANJ identifie 600 000 joueurs qui risquent d'être excessifs dans leur mise, d'autant qu'il y a un rajeunissement des parieurs. Chez les moins de 35 ans, ils sont plus d'un sur deux à se dire prêts à parier sur le résultat d'un match. Enfin, entre les notifications sur le téléphone, les publicités à la télévision, l'autorité craint une sursollicitation des parieurs. C'est pourquoi elle met en place dès aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour alerter sur les risques de dérive et d'addiction aux paris sportifs.
La campagne que vous verrez forcément, que ce soit à l'écran, à la radio, qui a été tournée dans les rues de Montpellier. Alors, nos Bleus, on est parti pour les suivre à partir d'aujourd'hui, au jour le jour, pendant un mois et demi. Sachez qu'ils se réveillent ce matin à Nantes, où ils joueront donc ce soir à 21h10, leur premier match de préparation contre la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de rotations prévues entre ceux qui sont à Clairefontaine depuis une semaine et ceux qui sont arrivés seulement avant-hier, Valentin Jamin.
Oui, car les écarts de rythme sont grands. Certains Bleus étaient sur le terrain samedi dernier, quand d'autres n'ont pas joué depuis plus de 2 semaines. Alors il ne faut pas attendre une équipe prête dès ce soir, explique le sélectionneur Didier Deschamps.
C'est une étape. Les 26 sont en de bonnes conditions. Après, il y a toujours des sujets un peu à gérer.
Les joueurs présents depuis vendredi à Clairefontaine ont fait beaucoup de travail foncier, raconte le défenseur Jules Koundé.
On a tous eu des saisons différentes. C'était important de repartir sur de bonnes bases, sur le plan athlétique. Donc on a pas mal couru. On est tous excités de démarrer cette préparation.
Qui doit aussi servir à créer encore plus de liens.
C'est de continuer à travailler les automatismes entre nous, de peaufiner les derniers détails. On est un groupe qui a eu l'opportunité de passer du temps ensemble.
Et pour les 6 finalistes de la Ligue des Champions, arrivés il y a seulement 2 jours, il s'agit également de basculer, annonce Didier Deschamps.
Je leur ai dit, stop, c'est fini. C'est un objectif commun, différent. L'environnement qu'ils peuvent avoir en club, c'est pas le même. C'est pour ça qu'il y a de la gestion sur le plan physique, mais aussi psychologique.
Eux ne devraient pas être titulaires, mais entrer en jeu, car Deschamps devrait faire de nombreux changements pendant le match.
Et alors, on surveillera peut-être qu'à un moment, on aura ce soir pendant le match un match entre les frères Doué, un de chaque côté, Désiré côté français, son grand frère Guéla côté ivoirien. Et ce match, comme tous ceux d'ailleurs de la Coupe du Monde, il sera à vivre sur RMC, radio officielle de ce mondial. Il y a 170 gendarmes qui sont toujours mobilisés ce matin dans le département du Gers pour tenter de retrouver Liana, cette jeune fille de 11 ans que plus personne n'a vue depuis qu'elle est montée, c'était vendredi dernier, dans la voiture d'un suspect âgé de 41 ans. Dont on découvre un petit peu plus chaque jour le lourd passé. Visé par 3 procédures pour viol ou agression sexuelle avant la disparition de Liana, et même par une quatrième depuis hier, c'est une jeune fille de 11 ans, encore une fois, qui dit avoir été agressée sexuellement lors d'une soirée pyjama au domicile du suspect en août l'année dernière. Son père témoigne à BFM TV, et Cassandre Bro, vous nous racontez pour RMC.
Nicolas se rappellera toute sa vie de cette lettre, un courrier de l'éducatrice de sa fille placée en foyer.
Il me dit qu'il s'est passé des gestes mal passés au niveau de ma fille au réveil, des caresses au niveau des fesses, des parties du corps.
Et même un viol au domicile de Jérôme B lors d'une soirée pyjama avec sa fille. Les deux enfants étaient dans la même école. Incompréhensible pour le papa qui tente, pendant une visite, de faire parler sa fille.
Elle savait pas que c'était pas normal. Et parler à son papa de ça... Je pense qu'elle veut pas m'en parler. Elle se renferme. Elle se croquille sur elle-même.
Si la petite fille pose difficilement des mots sur ce qu'elle a subi, son père reconnaît que son comportement a changé depuis.
Moi, ça me rend fou. Quand elle met des pantalons, ses t-shirts dans le pantalon, c'est comme ça maintenant. Elle fait attention de bien se tenir. Et à chaque fois que moi je l'ai en visite, elle a une veste. Ça a brisé... l'intimité de ma fille.
Nicolas, lui, ne décolère pas. Il espère que cette nouvelle plainte va permettre d'aider à retrouver la petite Liana.
Et ne manquez pas, à 8h30, mon invité, ce sera Dominique Rizet, journaliste police-justice, pour faire un point complet sur l'enquête, la disparition de la petite Liana et les dysfonctionnements de la justice.
Écoutez cette nouvelle action de militantes féministes hier soir à Paris.
Brûlez ! Brûlez ! Brûlez ! Brûlez !
stoppé et même fait annuler une représentation de la pièce de théâtre de Patrick Bruel au théâtre Édouard VII dans la capitale, lui qui est accusé de violences sexuelles, hein, qu'il continue de nier par une trentaine de femmes. Tiens, ça c'est la dernière provocation des trafiquants de drogue à Grenoble, la ville où le procureur en appelait carrément au pouvoir public la semaine dernière. Eh ben, ça n'a pas l'air de déranger les dealers puisqu'ils taguent désormais des offres d'emploi sur les murs du quartier Hoche. C'est un haut lieu du trafic dans l'agglomération grenobloise où s'est rendu notre correspondant Vincent Chevalier.
Julien habite dans ce quartier depuis 3 ans et il y a quelques jours, il a remarqué ces nouveaux tags.
Pour les différentes positions qu'ils ont à remplir, les tarifs pour leurs shifts.
Ça semble quoi alors les tarifs des shifts ?
Il me semble de mémoire, c'était 300 euros pour un shift pour un vendeur. La sécurité qui était un peu moins bien payée, je crois.
Des tarifs différents aussi selon les horaires de jour et de nuit, des offres d'emploi à ciel ouvert qui n'étonnent plus beaucoup ces riverains.
Je trouve ça assez quand même hallucinant de laisser faire de telles manœuvres, quoi.
Je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on agisse un peu plus fermement.
Après les prix de vente tagués sur les murs ou les publicités dans les boîtes aux lettres, les dealers franchissent un nouveau cap selon Alberto Randazzo.
Un cap inquiétant, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a une structuration et une banalisation du trafic de stupéfiants. Hein.
Il est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale en Isère.
Maintenant, il est temps que Grenoble se dote d'un véritable plan Marshall de la sécurité, tout simplement, avec un apport massif d'effectifs sur la voie publique, un apport massif d'effectifs dans les services d'investigation.
Ces 6 derniers mois, au moins 10 personnes ont été tuées dans des guerres de territoire dans la métropole de Grenoble.
Sachez que c'est la journée des demi-finales dames aujourd'hui à Roland-Garros. Tournoi qui est plus ouvert que jamais, hein, au lendemain de l'élimination de la numéro 1 mondiale. Et alors, il y a cette affiche qui passe évidemment pas inaperçue, hein, Lena Marjak pour RMC, entre l'Ukrainienne Kostyuk et la Russe Andreeva, dans le contexte évidemment de la guerre.
Chaque fin de match, pas de poignée de main, pas de parole ou de regard échangé. Mais en conférence de presse, Kostyuk ne mâche pas ses mots. Elle cible ses adversaires d'origine russe.
J'aimerais qu'il y ait une position plus claire sur ce qu'il se passe, surtout quand votre pays tue d'autres personnes. Je ne sais pas comment elles peuvent dormir tranquilles. Après 4 ans, les choses sont claires. On sait de quel côté elles sont et c'est leur fardeau. C'est à eux de le porter et non à moi.
Alors que Mira Andreeva, 19 ans, ne s'attarde pas sur le conflit opposant les deux nations ni sur le fait d'affronter une joueuse ukrainienne.
Peu importe contre qui je joue avant tout une balle. Peu importe qui est l'adversaire pour moi. J'essaie de me concentrer sur le jeu et sur le plan de jeu que je dois dérouler sur le court.
Évidemment, Marta Kostyuk, 15e mondiale, invaincue sur terre cette saison, sait faire la part des choses sur le terrain entre le conflit d'un côté et le tennis de l'autre.
Je pense que si je n'étais pas en mesure de le faire, je n'aurais pas réussi à gagner à 2 reprises contre elle comme je l'ai fait. Il faut être en mesure de jouer au tennis, de faire son travail.
Celle qui s'imposera aujourd'hui, soit Marta Kostyuk, soit Mira Andreeva, vivra sa première finale de Grand Chelem.
Bon, et puis ça commence mal pour Victor Wembanyama. Son équipe de San Antonio a perdu le premier match de la finale NBA contre New York, 105 à 95. Cette nuit, c'était ses premières 4 victoires qui gagnent cette finale. La deuxième manche est prévue dans la nuit de samedi à dimanche.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour
Emmanuel,
à tous.
Vous êtes inquiet ce matin parce que pour vous, la France aura bien du mal à éviter la récession.
Et oui, les vents contraires soufflent de plus en plus fort pour l'économie française. L'activité annoncée dans un premier temps stable au premier trimestre a en fait légèrement reculé, nous dit l'INSEE. Et surtout, tous les baromètres de l'activité sont en train de piquer du nez. La confiance des ménages, par exemple, plonge aussi vite qu'au début du Covid ou de la guerre en Ukraine. La situation financière des entreprises se dégrade. Hier a été publié l'observatoire d'Axonote sur les impayés. Les impayés des TPE et PME bondissent de 17% en mai. Et quand je vous dis plus 17% en mai, c'est pas par rapport à il y a un an, c'est par rapport au mois d'avril. Donc c'est un décrochage assez inquiétant. La reprise de l'immobilier, eh bien, elle est tout simplement en train de caler avec des ventes de logements neufs à ses plus bas niveaux historiques au premier trimestre et des ventes de logements anciens qui devraient baisser de 6% cette année, nous dit l'observatoire BPCE. L'environnement international est moins porteur lui aussi. Les prévisions de l'OCDE parues hier sont inquiétantes. Sans accord de paix au Moyen-Orient, la croissance mondiale ne serait pas de 2,9% comme prévu initialement en mars, mais de 2,1% seulement.
Donc évidemment, ce panneau, cette perspective, elle est bien, bien négative. Est-ce que le gouvernement a les moyens de donner un petit coup de fouet à l'économie ?
Eh ben, ce sera compliqué parce que les dépenses publiques, les déficits, etc., qu'on pourrait laisser se creuser, bah non, c'est pas au menu, puisque le gouvernement va devoir trouver au bas mot une dizaine de milliards supplémentaires, au contraire, d'économie. Et puis, il ne faudra pas non plus compter sur la Banque Centrale Européenne pour baisser le coût du crédit, puisque dans un environnement un peu plus inflationniste, elle parle au contraire de remonter ses taux d'intérêt. Ajouter là-dessus la perspective de l'élection présidentielle qui a toujours des effets négatifs sur l'activité parce que ça crée un climat d'attentisme. Ce sera compliqué, effectivement, d'éviter une récession. Même.
Les chiffres du jour, Emmanuel, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend ?
Alors, c'est simple. À la pompe, ça baisse. Sur les marchés, ça monte.
Ah.
Le gazole, 2,01 € le litre, le sans-plomb 95, 1,97 € le litre. Pour ces deux carburants, on est sur un rythme de baisse de 1 centime par jour, à peu près. Et le pétrole, par contre, on est à $97 le baril, on était à 90 en fin de semaine dernière. Le gaz, on est à 49 contre 46 en fin de semaine dernière.
Merci Emmanuel.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h11, restez bien avec nous. Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui revient avec ses blagues. Évidemment, à 8h30, ce sera le face-à-face. Et mon invité, c'est le chroniqueur judiciaire Dominique Rizet. Après la disparition de la petite Liana, existe-t-il encore une chance de la retrouver ? Elle a disparu vendredi dernier, 15h. Et l'on découvre un profil sidérant du principal suspect. 4 plaintes ou procédures qui avaient été déposées avant ce drame pour viol, pour signalement de comportement inadéquat sur mineurs. Nos institutions ont-elles failli ? N'ont-elles pas su protéger ces enfants, ces fillettes ? J'interroge donc à 8h30 Dominique Rizet et on fera le point complet sur l'enquête. Juste après, on poursuit notre page spéciale Coupe du Monde sur RMC. Une semaine avant le début du mondial, on sera au Texas. On va revenir donc au fin fond du Texas, dans un centre de rétention de migrants où se trouve notre reporter pour enquêter la police de l'immigration qui suscite les inquiétudes des supporters de ce mondial. Ce sera donc en direct à 8h50. Restez bien avec nous, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h15, Arnaud Demange pour le plus grand plaisir tous les matins. Salut Arnaud.
Et bonjour Apolline, bonjour les amis.
Bonjour.
Ce matin, une fois n'est pas coutume sur RMC, nous allons parler de sport. C'est bientôt la Coupe du Monde de foot, on n'en a pas encore parlé. Et Emmanuel Macron s'est rendu à Clairefontaine pour motiver les Bleus. Il est arrivé, salut les gars, je suis venu vous porter chance. Ah bah merde, on est mal barré. Comment ça merde? De toute façon, si vous perdez, vous faites comme moi. Vous dites que vous avez gagné et vous continuez comme si de rien n'était. Macron, il aurait perdu en finale contre l'Argentine, il serait allé chercher la coupe quand même, il l'aurait posée sur sa cheminée. Non, j'ai pas perdu. Regardez, il y a Bayrou à côté, ça fait la coupe aux grandes oreilles. J'ai les deux. Bref, il a encouragé les joueurs. Allez, soyez bons les gars. Hein. Et je vous préviens, c'est cette année ou jamais. Parce que avec Bardella président pour la prochaine, le casting va pas être le même. Hein. Il y aura Rabiot, Digne, et voilà. Et si c'est Mélenchon, bon, vous partirez pas dans des charters, les autres, mais vous serez tous au SMIC. Alors, il est où, Kylian ? Ben alors, Kiki, on a raté la Ligue des Champions ? Allez, viens faire un câlin. Viens te faire caresser le torse et ébouriffer les cheveux. Comme. Mais Brigitte, aïe ! Avec Kylian, c'est platonique en plus, j'avais dit.
Raphaël Glucksmann a annoncé qu'il allait plier Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Il continue sa tournée médiatique pour présenter son livre « Nous avons encore envie ».
Oui, c'est un titre très chic. Je sais qu'il vous plaît beaucoup.
Oh,
je sais que vous l'aimez bien. Ça fait un peu enfant de Versailles qui demande...
Encore envie.
Ouais, ça fait un peu enfant versaillais qui demande d'aller aux toilettes. Tu sais. Tu veux faire pipi, Louis-Philippe ?
Oui, nous avons encore envie. Voilà.
Je suis sûr qu'il va finir sa tournée média chez sa compagne, Léa Salamé, dans quelle époque ? Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour Madame Salamé. Alors, dans votre livre, vous suggérez une nouvelle approche écologique, notamment sur le tri des déchets. Est-ce que ça veut dire que vous allez enfin descendre la poubelle des cartons le mercredi soir ? Écoutez, Madame Salamé, vous prenez le sujet par le petit bout de la lorgnette. Parlons de ce qui intéresse les Français. Par exemple, l'alimentation. Très bien, est-ce que les Français vont pouvoir un soir se détendre après avoir fait le 20h et ne pas devoir cuisiner dès qu'ils passent le pas de la porte ? Non, Madame Salamé, Restons concentrés. Je vais plier Jean-Luc Mélenchon. Tu veux pas commencer par plier tes caleçons au lieu de les laisser Madame Salamé. Non, mais il n'y a pas de... Alors, dans son livre, il y a aussi un passage surprenant. Il évoque son fils de 8 ans, Gabriel. Il dit qu'il lit Platon et Aristote. Ça doit lui faire des récrés bizarres au gamin.
Hé, hey, Gabriel, t'as vu le but de Dembélé? Écoutez, j'ignore qui est ce Dembélé auquel vous faites référence. Je relisais quelques pages de l'allégorie de la caverne. C'est époustouflant. Ouais, y a même pas d'image dans ton livre. Mais c'est parce que la philosophie est elle-même une image.
Après, ça arrive d'être surdoué. Voilà, à 8 ans, Apolline, elle soutenait Jean-Pierre Chevènement. Mathieu Béliard, il avait déjà monté un groupe de heavy metal sataniste. Ouais. Virginie, elle était déjà championne de France de saut à la perche. Et Géraldine, bon, elle dessinait des soleils, bon, comme tous les gamins du temps. Chez elle, c'est devenu une vocation. Il y a des sous avec. Il y a de la thunasse maintenant.
Thomas Pesquet va repartir dans l'espace, Arnaud.
C'est notre denrée à nous. Et bah qu'il y reste dans l'espace, monsieur parfait. Oh, la Terre avec ses humains normaux, c'est pas assez bien, hein, évidemment. Thomas Pesquet, il est parfait. Il est beau, grand, fort, drôle, sympa, ingénieur, généreux, astronaute, musicien. Il joue du saxophone, il parle 5 langues, dont le chinois. Et même Rocco Siffredi, quand il l'a vu tout nu, il a dit « Waouh !» Bref, on se sent tous minables à côté. Vous savez que quand il est dans l'espace, Thomas Pesquet ne tourne pas autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne autour de Monsieur Pesquet. Quand il regarde une étoile filante, c'est l'étoile filante qui fait un vœu. Et le vœu, c'est ressembler à Thomas Pesquet. Et alors, vous avez vu, il a annoncé qu'il allait marcher sur la Lune. Je suis sûr que la Lune est flattée. Même moi, hein, même moi, je serais flatté si Thomas Pesquet disait dans la presse qu'il a envie de me marcher dessus. Et alors,
ça serait bizarre.
Ça peut s'arranger. Il y a des gens qui payent pour ça. Il y a des gens qui payent pour ça dans des donjons en cuir. Alors, il va pas être tout seul. Il part avec Arnaud Prost. Alors lui, on le connaît moins. On va lire son CV ensemble. Polytechnicien, blablabla, ingénieur aérospatial, oui. Militaire parachutiste, oui. Ok, pilote de chasse, 200 sauts de chute libre, plongeur professionnel, et il fait de la natation, de la randonnée, du rugby, il est beau et il est sympa. Ça va? C'est tout?
On vous dérange pas?
On vous dérange pas? Non, mais c'est quoi le concept à l'agence spatiale? C'est une usine à connards, en fait. C'est ça, ils sortent à la chaîne des gens parfaits qui servent à quoi? À nous donner des complexes? On n'a pas besoin d'eux. On a des miroirs à la maison, en fait. Allez, moi, je vous laisse. Je vais manger des Pringles en regardant Cougar Island avec une bière. Pardon si je ne passe pas mes soirées dans la Station Spatiale Internationale à faire des analyses de roches lunaires en jouant du saxophone et en parlant chinois. Allez, à demain.
Merci beaucoup Arnaud qu'on retrouve tous les jours en podcast et en tournée partout en France, à Avignon, à Nice, à Gaillac, au Garric, à Dijon, à Besançon, à Reims ou à Toulon.
Vous aussi, pas sur la
tournez,
lune.
Vous aussi vous tournez autour de la Terre. Oh, et c'est presque la Terre qui tourne autour de vous, Arnaud. Et c'est un spectacle RMC à 8h20. Je crois qu'il y a Marinette qui est au 32-16 avec nous. Bonjour Marinette.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Marinette? Vous êtes retraitée dans l'Ain et vous vouliez réagir à ces questions de congés payés, pas pris, payés. Comment vous réagissez? Vous racontez-nous.
Bah, moi, il y a une quinzaine d'années, j'avais deux employés qui souhaitaient que je leur paye une partie de leur congé.
Ouais.
Et en accord avec mon conseiller à l'époque, qui était un ex-inspecteur de l'URSSAF et mon expert comptable, on demandait simplement un courrier à la personne qui souhaitait qu'on lui règle ses congés, qu'elle n'avait pas prise, et point barre, on faisait ça fin mai. Et puis voilà, est-ce qu'il y a besoin d'une loi?
Donc vous l'avez fait? Vous l'avez fait?
Bah, bien sûr! C'était un ex-inspecteur de l'URSSAF qui me faisait le courrier.
C'est d'ailleurs ce que j'aime bien, c'est que vous dites, attendez, c'était quand même validé, quoi.
Bah, bien
Marinette,
sûr.
Vous étiez patronne, j'en déduis.
Bah, évidemment.
Dans quel domaine?
J'avais des magasins bio.
D'accord. Et donc, ça s'est passé, ça se passait en bonne intelligence, en bonne confiance. Est-ce que ça vous a coûté à vous en... Parce que là, l'idée, c'est aussi de les défiscaliser. Et donc défiscaliser pour le salarié et désociabiliser, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas les cotisations sociales pour vous.
Bah écoutez, moi je réglais, moi ouais. Je ne m'occupais pas
vous
de
même
ça.
Pas demandé
il y avait
ça, vous.
12 mois, 13 mois s'il y avait du bénéfice. Ouais. Moi j'avantageais toujours l'employé. Je veux dire, le truc c'est quoi? C'est moi je réglais ce que je devais à l'employé. Et point barre quoi.
Et vous ça vous arrangeait parce qu'il bossait un peu plus?
Comment?
Ça vous arrangeait parce qu'il bossait un peu plus.
Ça coûtait, oui, évidemment.
Oui, ça vous coûtait, mais après, ça vous arrangeait parce qu'il bossait un peu plus.
Ah, peut-être peu. Mais si c'était leur choix, ouais. Je veux dire, ouais. Voilà, c'est comme le 1er mai. Ouais. Moi, je n'ai jamais travaillé les jours de congé, lundi de Pentecôte, Pâques et compagnie. Le fameux lundi de Pentecôte, c'est moi qui le payais, c'était pas eux. Enfin, je veux dire, voilà, après, c'est une bonne entente. Faut arrêter, quoi. Tous les patrons ne sont pas non plus. J'ai un peu de mal.
Marilette, moi, j'aurais bien aimé vous avoir. Enfin, je veux dire, j'ai des très bons patrons, évidemment, c'est le moment de les saluer. Mais Marinette, honnêtement, Marinette, 74 ans, je trouve ça vraiment hyper intéressant aussi comme témoignage. Merci beaucoup d'avoir appelé le 32-16, Marinette. Vous revenez quand vous voulez. Il est 8h23 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, ça se passe aussi sur BFM TV. Et mon invité, c'est Dominique Rizet. Dominique Rizet, police, justice, bien sûr. On fait le point sur l'enquête. Où est la petite Liana, introuvable donc depuis vendredi dernier. Et est-ce que la justice a failli dans tous ces dysfonctionnements autour du principal suspect? À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Le cessez-le-feu Israël-Liban à peine annoncé, déjà en sursis. Un média d'État libanais rapporte ce matin des frappes israéliennes pendant qu'un ministre israélien qualifie cette trêve convenue hier de grave erreur. De nouvelles accusations contre Jérôme B, le suspect numéro 1 de l'enlèvement de la jeune Liana, toujours introuvable dans leur Gers. Et hier, la procureure a égrené d'autres dossiers, 4 procédures lancées pour viol ou agression. Et puis la France va s'équiper de 2 nouveaux Canadair. Cela porterait le nombre à 16 d'ici 2032, annonce faite ce matin. La météo, c'est l'automne, de la pluie des Pyrénées au Massif central jusqu'aux Alpes et au Jura. Ce sera pour la Côte d'Azur ce soir, de 15 à Aurillac jusqu'à 28 à Marseille.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sûr RMC et BFM TV et mon invité ce matin, plus qu'un invité, c'est évidemment un spécialiste, un chroniqueur, un consultant, Dominique Rizet. Bonjour Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV, et on a bien besoin de vos lumières ce matin. Où est Liana, la petite fille de 10 ans qui a donc disparu vendredi dernier? Mais depuis 24 heures, alors que les recherches se poursuivent, ce n'est plus seulement l'affaire Liana, c'est aussi l'affaire Jérôme B. Une affaire tentaculaire où l'on découvre un homme accusé de plusieurs plaintes, de signalements pour des viols, des comportements déplacés sur des fillettes ou des jeunes filles mineures. Et c'est aussi l'affaire de la justice, avec cette question que pose la maman de l'une des petites filles qui avait porté plainte pour viol contre lui en août dernier. Si la plainte avait été prise au sérieux, Liana aurait-elle disparu? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, Dominique, nous sommes donc jeudi. Presque une semaine que Liana a disparu. On en est où de l'enquête?
Alors écoutez, on la recherche toujours. Donc il y a 2 phases. Sur le terrain, il y a des recherches opérationnelles qui sont menées par la gendarmerie avec des renforts d'escadrons de gendarmerie mobile. Vous savez que depuis quelques temps, la gendarmerie a fait savoir qu'elle ne tenait plus tellement à ce que des battues citoyennes soient organisées. D'abord les gendarmes, et ensuite, si on a besoin de personnes qui viennent en aide, eh bien on va chercher des chasseurs. C'est ce qui s'est passé hier, parce que les chasseurs connaissent le secteur, des ramasseurs de champignons, des gens qui connaissent le coin. Donc des recherches opérationnelles sur le terrain, et puis à côté, des recherches numériques, techniques, et une personne qui a été placée en garde à vue, et pas n'importe qui, parce que c'est un personnage, on va y revenir, très intéressant. Recherche numérique, ça veut dire la caméra de vidéosurveillance. Il est 15h05, à la sortie du collège, l'après-midi, et Liana monte dans une voiture. Et c'est le conducteur de cette voiture qui va être interpellé par les gendarmes, qui lui pose la question, « Monsieur, est-ce que ?» Et monsieur répond, « Non, pas du tout, j'étais pas là. » Et les gendarmes lui disent, « Caméra. »
Ah, il commence par dire
« Non. »
Non.
Non, je n'ai pas vu Liana, je n'ai pas vu Liana ce jour-là, pas du tout. Or, les enquêteurs savent, avec la vidéosurveillance et un témoignage, que Liana est bien montée dans la voiture grise de cet homme. Premier mensonge. En tout cas, mensonge. Et donc ça, c'est l'enquête numérique. Et comme on est maintenant sur ce suspect, plus que suspect, il était placé en détention, toujours présumé innocent, mais placé en détention, eh bien, on va regarder le déplacement de sa voiture, de son téléphone. Est-ce que Liana avait un téléphone? Est-ce que son téléphone s'est déplacé, a borné en même temps que celui de cet homme dans la voiture, puisqu'on sait qu'elle monte dans la voiture? Est-ce que son téléphone a cessé d'émettre? On n'a pas encore les éléments sur est-ce qu'elle avait un téléphone.
On imagine et on espère que les enquêteurs l'ont et que ça fait partie des éléments sur lesquels ils vont pouvoir remonter. Il y a 2 heures,
Dominique, et c'est ce qui est sidérant dans cette histoire. Il y a 2 heures, entre 15h05, comme vous le dites, là on sait précisément que Liana est montée dans la voiture, et aux alentours de 17h, Jérôme Barella est vu à nouveau, puisqu'il vient chercher sa cadette ou qu'il participe à une fête de l'école. Il y a donc 2 heures pendant lesquelles on ne sait pas ce qui s'est passé.
C'est un tout petit peu plus compliqué.
Ah,
15h05.
Dites-moi.
15h05, elle sort de la piscine. Elle sort de son collège.
Elle sort de son collège.
Il faut 5 minutes pour aller à la piscine. Quand les gendarmes lui posent la question, il répond oui, finalement, je l'ai récupéré à la sortie du collège et je l'ai conduit à la piscine. 5 minutes. Ensuite, il dit, mais ça, ça n'est pas vérifié. En tout cas, ça doit l'être, mais on n'a pas l'information ni la réponse. Il dit qu'à 16h30, il est allé chercher sa fille à l'école. Ensuite, il dit qu'à 18h30, pardon, dans cette même école, il a assisté à une fête. Visiblement, 18h30, il est bien dans l'école, il assiste à la fête. Maintenant, les gendarmes sont allés questionner sa fille et pour lui demander, est-ce qu'à 16h30, ton papa est venu te chercher à l'école? On n'a pas la réponse. Ce qui fait que ça laisse un écart de temps plus grand à JB.
Ça veut dire qu'au fond, 15h05, effectivement, le moment où, officiellement, dit-il, elle est descendue de sa voiture.
Oui. 18h30.
16h30, dit-il, il serait allé chercher sa fille à l'école.
C'est à vérifier.
18h30, pour le coup,
il est là.
Il est bien là, et là, des témoignages le disent, il a bien été vu à la fête de l'école.
Ça lui laisse entre 15h et 18h30 pour...
Pourquoi?
Pour faire quelque chose qu'il refuse d'expliquer aux enquêteurs. En tout cas, il n'a pas beaucoup parlé aux enquêteurs, ou très peu. Et il a fait valoir son droit au silence devant la juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue de 48 heures. Ce qui veut dire que les enquêteurs ne pourront plus le reprendre. La garde à vue est finie. Celui ou celle qui peut le questionner maintenant, c'est le ou la juge d'instruction.
Et tout converge donc vers cet homme avec plusieurs points qui font qu'il est le suspect. Au départ, parce que c'est lui qui a en réalité vu la petite Liana pour la dernière fois,
oui,
puisqu'elle est montée dans sa voiture. Et puis, il commence à y avoir les récits de la maman qui dit qu'elle avait été chez lui pour une soirée pyjama.
Oui.
Là, ça commence à lever les doutes.
Bien sûr. Alors, la maman de Liana raconte qu'elle est allée chez lui pour une soirée pyjama, qu'ensuite, elle a raconté des choses et que les parents de Liana ne voulaient plus entendre parler de JB, de cet homme qui tournait autour de Liana. Donc il y avait les soirées pyjama, il y a ce que Liana avait dit à ses parents, et donc cet homme tournait autour d'elle un peu comme un prédateur. Alors encore une fois, on va pas faire le film avant que le film ne soit déroulé, et cet homme est présumé innocent.
Il a été vu lui apportant des goûters,
voilà,
à la sortie du collège.
C'est clairement quelqu'un qui s'intéressait à cette jeune fille. Des goûters, lui apportait des cadeaux, il était autour d'elle, les parents ne voulaient plus qu'elle aille chez lui. Et ce qui est terrible, c'est que chez lui, il y a un piège. Le piège, c'est sa propre fille, il y a lui, qui a l'âge de Liana et qui est la copine de Liana. C'est les soirées pyjama, on a tous des enfants, les enfants sont tous allés à des soirées pyjama. On s'est parfois posé un peu la question de savoir dans
tous
quel
les parents
foyer
se posent toujours la question.
Allaient nos enfants, mais là je peux vous dire que les soirées pyjama ça va être terminé.
Alors les soirées pyjama, il y a évidemment Liana, et puis il y a cette découverte, information BFM TV, qui évidemment crée la stupéfaction, une plainte, et puis hier on apprend que ce n'est pas une seule plainte pour viol, mais d'autres. Est-ce que vous pouvez nous refaire la chronologie?
Alors, août 2025. Une plainte est déposée pour viol au pluriel sur une fillette de 11 ans par ses parents entre 2024 et 2025 à Montestruc-sur-Gers au domicile de celui que moi j'appelle JB. 9 mois plus tard, il n'a toujours pas été entendu. L'affaire est toujours à l'instruction et la procureure de la République d'Auch nous dit c'est parce que on attend d'avoir tous les éléments constitutifs de l'enquête, expertise psychologique, expertise psychiatrique, examen médico-légal de l'enfant, audition des parents, avant d'entendre enfin et de placer en garde à vue monsieur JB. Donc on en est là, et il y a eu visiblement des dysfonctionnements, ou en tout cas
des lenteurs.
La gendarmerie, la brigade
des
territoriale,
des moments où c'est resté un peu dans le fond du tiroir.
Sûr. La brigade de Lectoure a été saisie par la justice, par Auch, le parquet d'Auch, au mois de janvier. Et depuis janvier, il s'est pas passé grand-chose. Le parquet leur avait demandé aux gendarmes de refaire des auditions de la maman, reprendre des auditions de la petite, de vérifier quelques points. Mais là, on est au mois de juin. Donc, jusqu'ici, le temps a passé.
Dominique Rizet, que dit la petite fille, la petite Rosa? Elle dit, elle a été jusqu'à porter plainte, raconter un récit circonstancié. Oui. Et malgré l'âge de la petite, il n'y a pas eu un sentiment d'urgence?
Mais vous savez, c'est ce que disaient plusieurs avocats qui sont venus chez nous hier, hein, Maître Pardo, Maître Maslia, et qui travaillent sur ce genre de dossier. En fait, on ne croit pas les enfants. A priori, on ne croit pas les enfants. On considère que les enfants sont des affabulateurs, on ne les croit pas. Et donc, il faut, pour des avocats, des pénalistes qui travaillent sur ce genre de dossier, insister, relancer la justice en permanence.
Alors que un certain nombre de, j'allais dire presque de warning, auraient dû immédiatement clignoter. Oui. Les sirènes auraient dû se mettre à sonner dans les bureaux de la police ou de la justice et de la gendarmerie en l'occurrence, parce que, certes, il y a cette plainte, donc, pour viol, déposée le 22 août 2025, mais il y avait eu précédemment un licenciement en 2021 avec signalement. Absolument. Pour des faits d'insistance particulière sur une jeune fille dans le cadre d'un établissement scolaire. Il y avait eu en janvier 2024 une plainte qui avait été classée sans suite pour viol sur une fillette de 9 ans. Il y avait eu en décembre 2017 un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie sur la question d'une jeune fille de 17 ans dont la mère avait saisi la gendarmerie. Et tout cela, comme si c'était en parallèle, comme si aucun n'avait croisé l'autre.
Oui. La plainte de 2022 pour des faits commis en 2020, c'est sur une fillette de 7 ans.
De 7 ans.
De 7 ans, oui. Alors là, il n'y a pas de condamnation pour l'instant. Donc il n'y a pas de casier judiciaire. Cet homme, JB, n'a pas de casier judiciaire. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître. Or, il y a une fois où il a été placé en garde à vue dans une affaire où on aurait pu prélever son ADN et le verser au TAJ, au FNAEG, au fichier des antécédents judiciaires. Il aurait pu avoir un TAJ, donc c'était une signalisation au système des antécédents judiciaires. Et vous voyez, c'est ça qui choque dans cette affaire. Et c'est ça qui est inaudible pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce genre de personnage aussi prévisible soit passé à travers les mailles du filet et puis échapper aux enquêteurs, les policiers, parce qu'il y a une plainte déposée dans un service de police, aux gendarmes, parce que les autres affaires sont chez les gendarmes, et à la justice. Et ça, c'est pas supportable, c'est pas audible. C'est comme dans les féminicides. C'est le type qui dit je vais tuer ma femme, je vais tuer ma femme, je vais tuer ma femme. Il le dit 10 fois, il finit par la tuer. Ensuite on dit ah bon, c'est Bruno Garcia qui tue sa femme Julie Douib en Corse, et ça a généré le Grenelle des violences faites aux femmes.
Laurent Nunez a dit hier qu'il y aurait une enquête administrative pour voir d'éventuels dysfonctionnements. Oui. Les dysfonctionnements, clairement, on les a sous les yeux. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, Dominique Rizet, ce matin, c'est que même lorsqu'il s'agit d'enfants, et c'est évidemment la question de cette urgence de la protection de l'enfant, je pense aussi aux deux filles de JB, comme vous l'appelez,
les malheureuses.
Qui sont deux petites filles qui étaient en permanence avec cet homme. L'État a-t-il failli dans la protection des enfants? À quoi servent les signalements s'ils ne sont suivis d'aucune conséquence?
La réponse est oui. L'État a failli, c'est évident. Et les enquêtes le prouveront. Donc l'enquête demandée par Laurent Nunez concerne les enquêteurs, gendarmes, policiers, en l'occurrence plutôt les gendarmes. Et les enquêtes aussi demandées par Gérald Darmanin concernent la justice, le parquet d'Auch, parce que ça traîne des deux côtés. Mais moi, je veux pas accabler des hommes, parce que je connais bien le travail des policiers et des gendarmes sur le terrain. Ils en ont beaucoup. Et le travail de la justice aussi, elle en a beaucoup. Elle manque de tout, elle manque de moyens, elle manque de greffiers. Les greffiers, c'est un métier très important et on les oublie trop souvent. Moi, je pense que on n'a pas les bons outils. Et que, en fait, plus de gendarmes, plus de policiers, plus de justice, c'est pas ça qui va changer les choses. On n'a pas les bons outils. Il faut de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions, des guetteurs, des veilleurs, des gens qui surveillent ce genre de sujet. Et puis, il faut aussi des nouveaux outils informatiques. On est intelligent, on sait faire. On est une démocratie,
c'est
un pays.
C'est ce qui paraît d'autant plus inacceptable et insupportable. Dominique Rizet, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a conférence de presse hier de la procureure, pendant qu'il y a ces questions politiques, pendant qu'il y a cette enquête qui va donc être lancée, enquête administrative sur les dysfonctionnements, il y en a toujours introuvable et c'est une course contre la montre. Vous nous avez dit au début la manière dont ces enquêtes étaient menées. Quels sont les éléments qui sont en possession aujourd'hui de la justice qui permettraient peut-être de pouvoir accélérer le fait de retrouver cette fillette?
Alors techniquement, on a une plage horaire. Entre 15h, on a dit 15h10 et 17h30. Hein. Quel trajet a-t-il pu parcourir, si c'est lui, si c'est bien lui, JB? Quel trajet a-t-il pu parcourir? Combien de kilomètres a-t-il pu faire? Le temps d'aller quelque part, de faire quelque chose et de revenir à son point de départ. Donc ça donne un rayon aux enquêteurs dans lequel ils sont en train de chercher
dans
Liana.
Dans lequel il aurait eu le temps de faire l'aller-retour en quelque sorte, puisque l'on sait à quel moment il revient, voilà. Où il réapparaît.
Et vous voyez comment c'est compliqué dans une affaire comme l'affaire Delphine Jubilard, avec Cédric Jubilard désormais condamné, qui ne s'est pas tellement éloigné de chez lui, qui a été condamné pour le meurtre de sa femme dont on n'a jamais retrouvé le corps. C'est-à-dire combien c'est complexe de rechercher quelqu'un. De la même façon, combien de temps a-t-on cherché le petit Émile dans une toute petite superficie? Là, dans cette affaire-là, 10 km de diamètre, ça fait 314 km de superficie. Ça fait trois fois la ville de Paris pour rechercher Liana. Dans la végétation.
Dominique Rizet, le profil, donc, on l'a vu, les éléments matériels, il y en a, la voiture?
Oui, la voiture, bien sûr que la voiture parle. Elle a déjà parlé d'ailleurs. Une voiture qui parle, c'est la voiture de Nordal Lelandais dans laquelle va monter Maëlys. Nordal Lelandais qui dit non, elle n'est pas montée dans ma voiture. On retrouve une empreinte palmaire de Maëlys dans la voiture. Donc, bien sûr qu'on va trouver de l'ADN, des cellules épithéliales, des empreintes digitales de la petite.
Liana dans la voiture de JB. De toute façon, il l'assume aujourd'hui. Il dit oui, elle est montée dans la voiture.
Voilà.
Donc, ce serait normal si c'est je vais dire à la place du passager. Dominique Rizet, il ne parle pas, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il parle? Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il parle?
Juste avant de vous répondre, si elle est montée dans la voiture, elle est montée à l'avant. Si on trouve des cellules épithéliales, de l'ADN, des traces, des particules de vêtements sur la banquette arrière, c'est qu'il y a une autre version. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il parle? Eh bien, c'est très difficile pour les auteurs de meurtres d'enfants, d'enlèvements ou de meurtres d'enfants, parce que cet homme est un père de famille et qu'il y a des blocages qu'il faut faire sauter, des verrous qu'il faut faire sauter. Alors, les gendarmes travaillent sans doute avec des psychologues quand on interroge des personnes comme lui, des psychologues pour essayer de les faire craquer, mais c'est terrible parce qu'il n'a pas parlé devant les enquêteurs et c'est difficile ensuite de parler devant le juge. La pression d'une garde à vue, c'est pas l'audition dans un cabinet d'instruction. Un juge d'instruction vous reçoit, vous vous asseyez,
c'est cordial.
Y a votre avocat, c'est cordial. C'est pas une garde à vue où les gendarmes tournent autour de vous, viennent vous réveiller à 2h du matin en vous disant tiens, on va vous reprendre de 2h à 4h, vous êtes fatigué. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça veut dire que cet homme, si c'est lui, hein, et souvent les prédateurs sexuels sont verrouillés parce que avouer le meurtre de l'amant de votre femme, c'est quelque chose. Mais avouer l'enlèvement, le meurtre d'une petite fille de 7 ans, de 11 ans, c'est très compliqué et l'histoire criminelle le prouve à chaque fois.
Dominique Rizet, au moment où l'on se parle, l'enquête a repris. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'il reste encore qui n'ait pas été fouillé, analysé, regardé?
Il reste tout. Il reste tout à faire. On a des périmètres sur lesquels on note des cartes géographiques, des cartes IGN, sur lesquelles on note ici on est passé, là on a constaté ça, là on a peut-être trouvé quelque chose. Et on va ensuite éliminer ces endroits-là. Mais ça va quand même rester compliqué. L'affaire du petit Émile, souvenez-vous, on retrouve son crâne à un endroit où des recherches avaient eu lieu. Donc il faut être très organisé. Et il faut que les groupes de travail se parlent, mais bon, ça, les enquêteurs savent faire, les gendarmes savent faire. Chacun se partage, on se partage le travail. Il y a ceux qui cherchent sur le terrain, il y a ceux qui cherchent le numérique, la téléphonie, il y a ceux qui vont faire des auditions. Vous disiez, tiens, ça fait une semaine. Eh bien, une semaine, c'est important parce que il y a des jours clés. Voyez, le vendredi matin, demain, les gendarmes vont être partout pour poser des questions à tous ceux qui vont passer en voiture dans le coin, parce qu'on a ces habitudes. Par exemple, le vendredi, c'est jour de poisson, ben on va à la poissonnerie parce qu'on mange pas de viande. Ou alors le vendredi, c'est jour de mosquée, on va faire la prière, on va repasser au même endroit à telle heure. Ou le vendredi, c'est rendez-vous avec les copains pour aller faire du vélo, ou avec des copines pour aller boire
et
un thé.
Et ceux qui peut-être étaient là vendredi dernier seront à nouveau là vraisemblablement ce vendredi.
Ceux qui ont des habitudes, Apolline, qui passent là le même jour, à la même heure, pour aller chercher les gosses à l'école, pour un rendez-vous en chimiothérapie ou chez le médecin, etc. Donc demain, ça va être un, si on n'a pas retrouvé Liana, ça va être un jour important de l'enquête.
Un jour
et
crucial.
Toute la région va être criblée par les gendarmes.
Criblée et déjà évidemment extrêmement mobilisée. On l'entend sur le terrain avec nos reporters. Merci beaucoup Dominique Rizet d'avoir pris le temps ce matin de vraiment comprendre à la fois évidemment où en est l'enquête, mais aussi ce profil et les dysfonctionnements. On le rappelle, il y aura une enquête, mais le temps de l'enquête n'est évidemment pas celui de la recherche de cet enfant toujours disparu donc depuis vendredi dernier. Merci Dominique. Dominique Rizet, consultant police-justice sur BFM TV. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Dans un instant sur RMC, notre page Coupe du Monde à 7 jours du premier match et on sera en direct du Texas pour parler police de l'immigration.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 et vous êtes bien sur RMC. C'est la Coupe du Monde de foot dans 7 jours. Premier match dans pile une semaine et ça commence déjà maintenant sur RMC.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Antoine Salva est avec nous, bonjour. Dans un instant, vous allez nous faire découvrir les sons du mondial. Mais juste avant, on retrouve notre envoyé spécial aux États-Unis, Martin Bourdin. Bonjour Martin.
Bonjour.
Et ce matin, vous êtes dans la petite ville de Dilley. C'est au fin fond du Texas, pas loin de la frontière mexicaine. C'est là où sont enfermées des dizaines de personnes arrêtées ces derniers mois par la police de l'immigration.
Et notamment des enfants, des adolescents, Apolline, des soupçonnés tous d'être en situation irrégulière ici aux États-Unis et donc enfermés dans ce qu'on appelle officiellement ici le centre résidentiel pour les familles du Sud Texas. C'est plutôt joli, mais dans les faits, eh bien, c'est un centre de détention, notamment pour les enfants arrêtés par cette police de l'immigration qu'on appelle ICE ici aux États-Unis. Une centaine de personnes seraient actuellement détenues dans ce centre de détention. Il y avait notamment un garçon de 5 ans qui avait été amené ici en janvier avec son père plusieurs jours après avoir été arrêté à 3000 km d'ici. Moi, aujourd'hui, j'ai essayé de m'approcher de cet ensemble de bâtiments blancs, voir à quoi ça ressemble pour vous les décrire. Accès refusé, j'ai dû retourner le long de la route à 300 mètres de l'entrée derrière des barbelés où des policiers m'ont rapidement retrouvé pour me demander ce que je faisais là. Tout s'est bien passé, mais ça montre quand même que tout ce qui touche à cette police de l'immigration est très sensible ici aux États-Unis.
Et l'ombre de cette police de l'immigration va peser sur la Coupe du Monde.
Parce que des agents de cette police fédérale sont mobilisés sur la Coupe du Monde pour assurer la sécurité autour des stades, autour des fan zones notamment. Les autorités promettent que ce ne sera pas pour faire des contrôles d'identité. Ils feront attention notamment au trafic de drogue, au trafic d'êtres humains. Voilà ce que les autorités promettent. Ça ne rassure pas vraiment les minorités ici. Il y a quelques jours en Floride, j'ai laissé traîner mon micro dans un quartier où vivent de nombreux Haïtiens, communauté régulièrement ciblée par la police de l'immigration. Jean-Pierre a fini par accepter de discuter avec moi. Pas question pour lui de faire la fête les jours de match d'Haïti pendant cette Coupe du Monde.
Je vais regarder les matchs à l'intérieur chez moi. J'ai peur de ICE. Ils peuvent venir te chercher chez toi.
Il y a souvent des arrestations ici.
Et oui.
Et dans ce quartier, même ceux qui ont des papiers américains et qui sont donc légalement aux États-Unis, comme Patricia, même ceux-là craignent d'être arrêtés et envoyés dans l'un des 220 centres de détention du pays.
Bien sûr, je suis toujours en train de regarder par-dessus l'épaule. On garde les yeux bien ouverts, on ne sait jamais. Une de mes amies a retiré ses enfants de l'école pour leur faire cours à la maison parce qu'il y avait eu un raid de ICE dans l'école. Beaucoup de gens ne veulent plus sortir à cause de ICE. Ils peuvent s'en prendre à tout le monde. Si on va à la fan zone, on va peut-être se faire arrêter.
Martin, on en a beaucoup parlé de cette police de l'immigration. Est-ce qu'on en parle encore aux États-Unis ?
Beaucoup moins qu'en janvier, effectivement, quand des agents ICE avaient tué deux militants dans la ville de Minneapolis. Depuis, cette police de l'immigration fait plutôt profil bas. Les arrestations, elles, en revanche, continuent. Au 1er avril, 60 000 personnes soupçonnées d'être en situation irrégulière étaient retenues dans un centre de détention, notamment des familles installées ici, au Texas, regrette Laura Perez Boston. Elle s'occupe d'une association d'aide aux migrants au Texas.
La police et ICE ne protègent pas notre communauté et nos familles. Rien ne s'est calmé. Un quart des arrestations pour infraction aux règles d'immigration a lieu dans le Texas. C'est complètement disproportionné. Il faut qu'on voit que les détenus dans ces centres n'ont pas accès à l'eau potable et à la nourriture. Les droits de l'homme sont bafoués, ça c'est tous les jours. Mais comme ce n'est pas dans la rue, on n'en parle pas et on ne le voit pas.
Et certaines associations comptent bien servir dans la Coupe du Monde comme caisse de résonance. C'est ce qui se passe d'ailleurs depuis la semaine dernière dans le New Jersey, pas très loin de là où se tiendra la finale de la Coupe du Monde et le premier match des Bleus contre le Sénégal le 16 juin.
Merci beaucoup, Martin. Toute la semaine, vous nous racontez l'Amérique de Donald Trump qui s'apprête donc à vivre la Coupe du Monde.
RMC, le mondial d'Antoine.
Après avoir été voir sur le terrain, Antoine Salva, on va essayer de comprendre avec vous. Premier match donc de la Coupe du Monde dans 7 jours exactement. Et les musiques de la Coupe du Monde, ben elles n'ont pas attendu. Hein.
Et oui, on attend un peu pour la compétition, mais musicalement, on est déjà en plein dedans. Hein. La FIFA a dégainé très tôt avec une playlist officielle. Fini l'hymne unique de la compétition. Place désormais un album entier. Et en tête de gondole, je vous le donne en mille, Shakira. Après Waka Waka en 2010 et La 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 en 2014, la Colombienne fan des onomatopées a sorti Dai Dai avec le Nigérian Burna Boy. Parmi les autres morceaux officiels, Lighter de Jolly Roll et Karine Leon, Echo signé Daddy Yankee et Shensi ou encore Ghost. Sachez que ce trio formé par Lisa, Anita et Rima se produira lors de la cérémonie d'ouverture.
Alors ça, c'est les titres commandés par la FIFA et il y a d'autres productions qui font le buzz. Hein.
Et oui, ce sont peut-être celles-ci les plus populaires. Le phénomène surprise nous vient de Bosnie.
I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see
statue. C'est entraînant. Hein. USA du groupe Dubioza Collectif est un carton, un clip simple tourné pour 3 francs 6 sous et des millions de vues. Pourtant, il date de 2011. C'est lors de la qualification de la Bosnie-Herzégovine en mars dernier que le titre a connu une seconde jeunesse quand en arrivant dans la salle de presse les joueurs ont entonné le refrain I'm from Bosnia, take me to America.
Les hymnes officiels, les productions originales, nous sommes en 2026, il nous manque peut-être un peu d'intelligence artificielle.
Eh oui Apolline, il faut vivre avec son temps ou pas, hein. Quoi qu'il en soit, ils sont nombreux à avoir généré des morceaux publiés ensuite sur les réseaux. On commence avec le pays où le foot est roi et dont le maillot comporte 5 étoiles, vous l'avez ?
Évidemment.
Le Brésil, ce morceau concocté par Guilherme Maia, alias M4IA. Le foot se défend d'avoir tout produit via l'IA en se servant de tel un assistant. Hein. Et il ne dément pas s'être inspiré d'un autre titre égrenant les noms de joueurs présents au mondial. Celui-ci, également produit via intelligence artificielle, concerne nos bleus cette fois-ci. Il est signé Cristallo. Imbattable, on l'espère pour la dernière compétition de Didier Deschamps. Bon, à ce propos, Apolline, connaissez-vous le nouveau surnom de Didier Deschamps ?
Non.
Trois pommes. Et il est signé Aimé Jacquet, sélectionneur champion du monde 98, qui lui a envoyé un petit message pour lui transmettre ses encouragements à son ancien capitaine. Allez, je vous laisse avec l'hymne des Bleus, en principe sans intelligence artificielle, trophée de Matt Pokora et du groupe L2B. Il sera disponible dès demain.
En musique, Antoine Salva. Merci Antoine, une chronique à retrouver en podcast et durant toute la Coupe du Monde évidemment. Une Coupe du Monde que vous suivrez sur RMC, radio officielle de la compétition. Dans un instant les GG, Alain Marchal est rentré dans ce studio. Salut Alain, quel est le programme ?
Eh bien nous reviendrons sur le profil du principal suspect dans la disparition de Liana, les ratés de la justice et puis on aura une question toute simple à vous poser aussi. À partir d'aujourd'hui, enfin c'est ce soir, minuit, qu'il faudra avoir fait sa déclaration de revenus. Et très franchement, est-ce que déclarer ses impôts aujourd'hui, c'est devenu insupportable? Insupportable, pourquoi? Parce que on se demande ce que deviennent nos impôts et aujourd'hui, ça dysfonctionne de tous les côtés. Vous viendrez en parler avec nous au 32-16, bien évidemment. Et puis, nous recevrons aussi Raphaël Glucksmann. Il aura un face au GG avec Mourad Boudjelal, Charles Consigny et Flora Guebali.